Bonjour, nous sommes en octobre 2013, c'est le troisième numéro de l'Entrepode, bienvenue à tous.
What?
C'est un peu fort, Bidouille, c'est ça? Autour de la table aujourd'hui, pour l'Entrepode, nous avons Mister Lulu.
Yeah, bonjour.
Christophe.
Bonjour.
La starlette Delphine.
Yeah.
Freddy.
Salut.
Didouille.
Yes.
Et moi-même Nico. Malheureusement Marius n'est pas là aujourd'hui parce qu'il bosse, mais
yes,
il sera rapidement de retour. Et bien sûr, en revanche, pardon, nous accueillons un nouvel invité, en la personne d'Anthony, qui est journaliste, mais qui viendra surtout nous parler de son activité extra-professionnelle, consacrée à sa passion pour le Chili.
Et wow. Puis...
Bonjour à tous.
Bonjour Anthony.
Bonjour Anthony.
Et puis peut-être nous parler d'autre chose, rebondir sur les différents sujets que nous allons aborder.
Sache que tu n'es pas seul, Anthony.
je me sens bien entouré, merci.
N'a pas dit son nom de famille.
Anthony, je ne savais pas comment ça se prononce.
En fait,
donc,
il s'appelle Anthony Prince des Collines.
Anthony Quindroit.
Anthony Quindroit, c'est
et ça. Et bien voilà.
Et si vous la complexité là, du
je
nom
savais
de famille
pas, bah, je sais pas comment ça se prononce.
C'est bien préparé,
ah,
ça.
C'est bon, ouais.
ça sent l'amateurisme à deux balles, ça.
Oui, bah, je suis désolé, d'habitude c'est Marius qui présente, et bien il n'est pas là, donc bref. Donc au sommaire de ce numéro, nous ferons un retour sur l'épisode précédent à travers quelques points sur lesquels on va revenir. Ensuite, Freddy, Didouille, moi-même et puis d'autres personnes qui vont se greffer au conducteur qui n'était pas prévu vont faire un petit tour d'actu.
Vraiment pas à qui tu veux parler.
Anthony nous présentera sa passion pour le Chili, à quelques semaines de l'élection présidentielle et surtout à l'occasion du 40e anniversaire du coup d'État de Pinochet et puis d'autres choses certainement aussi. Il nous détaillera un petit peu tout ça.
C'est marrant de parler d'anniversaire pour un coup d'État, mais c'est...
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Non,
c'est
marrant.
Après,
c'est des commémorations.
Excusez-moi, j'ai confondu avec l'anniversaire d'Anthony qui est aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça.
Non, mais c'est marrant, c'est marrant, hein, tout est relatif.
C'est pas Pinocchio.
Ah bah, on verra.
On part de loin.
Hein. On sera dans le détail.
Si
voilà.
Je vais rester pendant 2 heures.
Bah, tu sais, moi, je suis resté pendant 20 ans alors.
Ensuite la rubrique culture qui s'appelait rubrique culture mais qui s'appelle maintenant, enfin elle n'a pas trop de nom mais c'est un peu une rubrique à braque pour un petit peu essayer d'élargir un peu les thématiques qu'on voulait aborder. Freddy nous fera son désormais célèbre quiz. Ce sera le moment enfin des coups de gueule. Mais toi, c'est intégré dans...
Non, c'est ma rubrique.
Eh oui, j'ai testé
d'accord.
Pour vous.
On a intégré une rubrique qui, pour moi, était dans rubrique à braque.
Non.
D'accord. Donc, Starlette, puisqu'elle le réclame à corps et à cri.
Faut gérer les célébrités maintenant.
Attends, on m'offre une rubrique, après on le dirait.
Ça y est, tout le monde a le melon d'un coup. Ok, super. Donc, qui s'appelle Starlette a testé pour vous. Donc, elle vous fera un petit retour sur ce qu'elle a pu tester dernièrement. Les coups de cœur et les coups de gueule de chacun en 60 secondes chrono. Et enfin, l'instant culture G pour s'endormir moins bête. Mais bien sûr, puisque nous avons eu des retours lors du premier épisode, la très attendue ou redoutée séquence post-générique de Mister Lulu qui sera de retour avec encore certainement du lourd, du très très
là,
lourd.
C'est juste un classique en fait,
un classique.
Un oldies comme on dit.
Et comme on a prévu de faire ça en 1h30, on va commencer tout de suite. Et c'est Ludo qui commence avec de quoi vas-tu nous parler pour le retour sur l'épisode précédent ?
Très rapidement, à propos de l'expo photo de Manu qu'on a reçu la semaine dernière. Et donc,
il y a un mois.
Oui, mais il faut quand même expliquer un petit truc, c'est qu'en fait, nos émissions, on les enregistre tout en même temps, un mois après la diffusion. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut s'habituer.
C'est compliqué.
J'ai rien compris.
Non, mais c'est le truc que tu m'as filé à boire, là. Je comprends pas. Ça vient pas du Chili,
donc,
mais c'est tout pareil.
Du coup, on a un an d'émission d'enregistrer. En fait.
Exactement.
Ludo, t'avais deux minutes pour revenir.
Oui, c'était un mois. Comme le temps passe vite.
Ben ça y est, c'est fini d'ailleurs.
Et,
allez,
voilà,
à moi.
Et donc, on a reçu donc le mois dernier effectivement Manu pour son expo photo.
Emmanuel Vicente.
Exactement, hein. Alias El Manolo, Bancorp, comme on veut, pour son expo photo qui avait lieu au Trait. Et donc je m'y suis rendu. Et d'ailleurs il n'y a pas que moi qui.
J'y suis allé aussi.
Tu y allais aussi. Mm. Et voilà, on est allé admirer ça et c'était des photos magnifiques. Qui en doutait. Mm. Avec donc son expo sur les photos de la place du Tertre. Et
De l'Armada.
Mm. Voilà, et c'était magnifique. D'ailleurs,
elles sont en vente, les photos aussi, sur le site. On pourra mettre
le lien.
D'ailleurs, la mairie du Trait a déjà acheté, est déjà partie pour y acheter une série de 6 photos. Il y a vraiment des choses magnifiques. Voilà.
Ouais, 7000 euros, je trouvais ça un peu cher le cliché.
C'est pas faux.
Tu nous as présenté un cliché à 3 millions d'euros la dernière fois qui était moche à chier. Donc,
moche à chier.
Moche à chier. Ou Pinochet. Moche à chier, Pinochet, c'est un peu le même.
Ok. Maintenant, c'est Freddy qui veut nous faire un petit retour sur un sujet.
Oui, c'est pas seulement moi, parce que je suis allé voir la Maison Tellier au Trianon transatlantique, mais il y avait aussi Christophe et Marius qui n'est pas là, mais qui, je peux parler en son nom en disant qu'il a beaucoup aimé, il a pris une belle claque. Personnellement, c'était le cas aussi. Je trouve qu'on retrouve sur scène le bon côté de l'album, très vivant, très rock. Voilà, ça marche vraiment bien et je me fais pas de soucis pour eux. Je pense qu'ils peuvent partir en tournée tranquille. Christophe, je ne sais pas si tu veux ajouter un petit mot.
Bah, j'ai juste appris cette semaine qu'il partait cette semaine faire deux concerts aux États-Unis, un à Philadelphie, un à New York. Je trouve que c'est plutôt
pas mal. Ouais, c'est pas mal.
Tu les as entendus à France Culture.
Et je les ai entendus à France Inter, qui les a présentés chez Manouchian. Donc c'est aussi une petite
référence.
Une
jolie chronique, j'ai trouvé, c'est vrai.
Ouais, très bien, on leur souhaite beaucoup de réussite parce que visiblement, ils avaient l'air d'avoir fait un bon album et puis une très belle prestation au Trianon. Il y a de
ça a duré longtemps le concert ?
15 jours peut-être.
Je ne sais pas, j'ai même pas
fait attention. On n'a pas regardé, une heure et demie je pense. Il n'y avait pas de première partie, c'était... Ouais. En fait ils ont fait tout l'album.
Je suis sorti
plus quelques retours sympas sur les albums précédents. Ils ont fait une chanson de chaque album, chacun des trois albums précédents.
Ok.
Ouais, ça devait être une heure et demie, je suis sorti de répète, je vous ai retrouvé.
C'est ça, ça va intéresser tout le monde.
Exactement. C'était l'information inutile, voilà. Désolé Ludo. Je te pique ta chronique.
Mais tu as mangé quoi quand tu l'as retrouvé après, ça, dire
Comment ça m'intéresse. En fait, rien, il buvait de la bière, bref, manger des cacahuètes.
Il portait un polo, il avait un jean déchiré.
J'adore cette émission.
Starlet, toi, tu voulais aborder le dernier épisode de Breaking Bad, quelque chose qu'on évoque. Là, on est un peu monomaniaque, en fait, sur cette
émission. Ouais, mais là, c'est fini. On n'en parlera plus et il fallait faire un retour dessus parce que, on l'attendait tous avec impatience la dernière fois et je crois qu'on n'a pas été déçus. Hein.
On raconte pas, on a dit.
Je raconte pas du tout. Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est la série la plus violente psychologique. Et physiquement que j'ai jamais vu. D'habitude j'ai du mal à le supporter, mais alors là j'ai été à fond du début jusqu'aux dernières secondes. Vraiment c'est formidable, très très bien réfléchi, tout a été vraiment bien orchestré, formidable. Voilà, j'ai que ça à dire. Donc ceux qui n'ont pas vu, regardez.
Même Anthony Hopkins.
Oui, absolument.
Et Anthony tout court aussi, hein, parce que j'ai vu le dernier épisode et c'est vrai que j'ai.
Ah non, mais terrible, quoi, franchement. Je ne sais pas si ça aurait pu finir autrement, finalement.
La boucle est bouclée, enfin, il n'y a rien qui reste en suspens.
Et... Effectivement, c'est rare de voir une série comme ça.
Dans le micro, Dinoï.
C'est rare de voir une série aussi bien ficelée. Moi, la dernière que j'avais aimée, qui était super bien ficelée, c'était. Six Feet Under, j'avais trouvé vachement bien.
C'est encore différent, mais
oui. Non, mais on n'est pas dans le même registre, peut-être. Mais je veux dire, rares sont les séries qui jusqu'au bout savent tenir le public. Oui. Il y a toujours un moment où, oui, on va lâcher un petit peu. Le début, ça part bien, puis après, bon, on lâche. Là, franchement, voilà. Et Anthony Hopkins a même écrit une lettre à l'acteur principal en lui reconnaissant un talent d'acteur et comédien hallucinant.
Moi, je veux bien la même lettre. Hein. Celle-là, il peut l'encadrer, je crois.
Il s'est même enfermé pendant 3 jours chez lui pour les voir tous de A jusqu'à Z, en fait. C'est complètement coupé du monde, Anthony Hopkins. Et suite à ça, il a fait la lettre.
La feignasse, il n'a pas un boulot, lui.
Moi, ça fait marrer. Ils sont enfermés dans sa chambre, là, comme un vieil ado.
Ça m'énerve un peu tout ça. Et entre nous, ça vaut pas le final de Maggie. Enfin, personnellement, excusez-moi, je suis un peu, je reste sceptique. Hein. Maggie et Marquée Sophie aussi, j'aime bien.
Mais ça m'a donné envie de revoir l'épisode d'ailleurs de X-Files où Vince Gilligan a eu envie de donner ce rôle à Bryan Cranston. Donc, je sais plus quel épisode c'est. Je l'ai en bécane.
C'est un épisode où en fait ils sont avec Mulder. Je crois qu'il est blessé à l'arrière du véhicule.
Il y a une femme qui est à l'arrière du véhicule.
Il y a un rôle important dans cet épisode.
Il fait partie.
Et il a vraiment un rôle déjà un peu fou, etc. Enfin bon,
mais je suis pressée de le voir aussi celui-là.
Enfin, qu'on regarde ça. Très bien pour Breaking Bad. Je propose à Christophe de revenir sur un sujet qu'il nous avait présenté lors du dernier épisode.
Oui, enfin, en fait, ça va être très rapide parce que j'avais une autre idée.
Ah ben d'accord. Bon, le conducteur, il vous emmerde, faut le dire. Hein.
C'est pour ça que je l'emprie pas.
Christophe, pardon, fais pas cette
tête. Je fais pas d'erreur.
Non, j'avais présenté effectivement le premier musée virtuel de street art dans la Tour Paris 13, donc dans le 13e. Et donc l'expo se termine le 31 et donc le site est ouvert, mais il restera ouvert après jusqu'au 10 novembre pour aller voter pour les œuvres qui vous ont interpellé, plu. ou détester.
Quand tu dis le site reste ouvert, c'est le site internet.
Le site internet, oui, bien sûr. Oui, c'est pas la tour, puisqu'elle est déconstruite.
Ok. Et puis, moi, je vais être assez rapide sur... J'ai lu la splendeur du pingouin que Ludo nous avait présenté, donc qui est relatif à l'un des ennemis récurrents de Batman. Et effectivement, c'est... Enfin, il y a deux histoires. J'ai préféré la première, d'ailleurs, en termes de... à la fois de scénario et même d'écriture et de dessin. Mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant où on se focalise. Batman est peut-être sur 3-4 planches, c'est tout. Mais on se focalise vraiment sur un de ses ennemis. Et c'est, voilà, je trouve que c'est intéressant. Il y a de la profondeur, il n'y a pas trop de surnaturel ou quoi que ce soit. Enfin, vraiment, c'est un très bel ouvrage et je vous le conseille.
Ouais, chute sur ma gauche.
Chute à l'arrière, gâteau. Caramel au beurre salé en décollage immédiat.
Donc... Ensuite, avant d'attaquer l'actu, un petit retour également pour remercier nos auditeurs qui nous ont fait des retours. Donc, notamment, que ce soit Nuno, qui nous a un petit peu taxé d'être bavard. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que l'épisode était un poil long. En nous demandant quand est-ce qu'on allait faire la nuit de l'Entrepode. Oui, Didouille.
D'ailleurs, Nuno a vu le film de Metallica. Et donc,
c'est un retour, effectivement.
Effectivement, donc j'en profite pour dire qu'effectivement, rien de nouveau au niveau du scénar et tout ce qui s'ensuit. Par contre, il explique bien que pour tous les fans de Metallica, le spectacle qui est dans le film est super bien, que le son est génial et qu'au moins pour voir le concert, allez voir le film de Metallica.
Mais voilà. J'en parlais avec Ludo, ouais, c'est un truc moi, qui me dit bien.
Ouais, on en a parlé hier.
Au final. Ensuite, on a Barberousse qui nous a dit que c'était un petit peu trop hardcore, le groupe de métal que Ludo nous a fait découvrir. Je le rejoins parce que j'ai eu...
Vous êtes petit joueur sur ce coup-là.
J'ai un peu eu Madness Rain dans la tête pendant une semaine. Donc, le syndrome de
vampirisme. Syndrome du vampirisme.
Hurlant dans la nuit.
Voilà, on s'arrête là. Merci. Gawel qui nous a dit que bravo, que c'était très intéressant, que ça l'intéressait. Pardon, excusez-moi.
Parce que là, tout va bien.
Excusez-moi. Laurent Doucet qui nous dit qu'on est en progrès, que c'est pas mal. Peut-être un petit manque de rythme. Effectivement, on s'en est rendu compte aussi. On va essayer de s'améliorer là-dessus pour éviter de garder la même dynamique. Et Walter Proof qui nous dit que ça commence à prendre tournure et qu'on est sur la bonne voie. D'ailleurs, Ludo va peut-être rebondir là-dessus. Walter nous a fait un retour concernant la BD Punk Rock Jesus, où il nous disait que le pitch était assez calqué sur l'Évangile selon Jimmy de Didier Van Kovelaert.
Du coup, ça a excité ma curiosité.
Coup, ça nous a intéressé. Moi, je l'ai pris sur la liseuse et Ludo l'a acheté. Il a pas mal avancé dessus.
J'ai commencé à attaquer le bouquin parce que j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et donc, du coup, quoi?
Sinon, Anthony l'a lu aussi, c'est ça? Anthony l'a lu, donc...
Ah oui, mais je veux pas qu'il en dise de trop, Anthony, parce que je suis qu'à la 100e page, alors.
Et Anthony, si tu peux dire dans les grandes lignes, c'est un livre qui t'a plu?
Alors, vraiment, c'est un livre que j'avais acheté vraiment par hasard pour des vacances. Et du coup, j'ai pas du tout profité de mes vacances, parce que j'ai passé tout mon temps à lire ce bouquin. Il est franchement très prenant. Et c'est vrai que j'avais écouté votre chronique donc d'il y a deux jours. et ça m'a effectivement fait penser au pitch l'Évangile de Jimmy de Didier Van Kovelaert.
Ce qui m'intéresse à savoir, ça va, mais bon, je le découvre au fur et à mesure, c'est de voir si effectivement le point de départ, qui est donc le clonage à partir de l'ADN qui est sur le sueur de Turin, si c'est vraiment le point de départ ou si après les deux histoires partent chacune de leur côté ou si elles se retrouvent vraiment complètement. Et là, j'ai pas trop l'impression pour l'instant, parce que dans l'Évangile de Jimmy j'ai l'impression, mais en gros j'ai fait commencer le bouquin, que on escamote l'enfance et le développement les développements de l'enfant Jésus qui est en fait au cœur de la BD. On l'escamote pour arriver plus sur l'âge adulte, c'est-à-dire autour de 32 ans. Et là, l'histoire prend forme et puis, va se dérouler. Mais j'en sais pas beaucoup plus. Donc, si c'est ça, c'est intéressant parce que ça fait deux traitements. Et donc, du coup, ça m'a quand même intéressé, l'intervention de Walter Proof à ce sujet-là.
Très bien. Voilà. Et puis, on a eu aussi, alors, je sais pas prononcer son pseudo, c'est Arnumero XX. Donc, qui est un podcasteur du podcast Did You Riddle. Qui nous disait que c'est qui nous félicitait pour ses premiers épisodes, qui nous incitait à écouter son propre podcast, ce qui est normal. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et honnêtement, je trouve que c'est un petit podcast vraiment sympathique qui est axé sur la culture musicale. À base de quiz,
de popo,
exactement.
Il faut que j'aille écouter alors.
Non, mais c'est assez intéressant. Il y a pas mal de petits quiz. Alors au début, les premiers épisodes, bah, comme nous, il y a des petits manques de rythme, peut-être la façon de se trouver. Mais je trouve que l'esprit est pas mal. Il y a quelques rubriques assez intéressantes. Enfin, je me rappelle certains blind tests qu'on pouvait faire avec Freddy dans notre adolescence. Et je pense que voilà.
On avait 25 ans.
Ouais, bah, on a été adolescent très tard, mais donc vraiment, c'est un podcast vraiment que je vous conseille, qui est assez sympa. Et puis, on a aussi la possibilité, puisque c'est vrai qu'on ne l'avait pas précisé, mais de laisser des avis sur iTunes et laisser des commentaires. Donc, c'est le cas de la Picrevée, qui nous a laissé un commentaire.
Qui est donc cette Picrevée ?
Qui est cette Picrevée ?
Dont j'adore le pseudo.
Mystère. Et qui nous dit que, voilà, globalement, c'est... Je vous laisse aller voir sur iTunes, mais qui nous fait aussi des éloges. Donc, c'est toujours sympa, même si effectivement, on se rend compte qu'on a toujours des progrès à faire. Voilà pour les retours sur l'épisode précédent. Et maintenant, on va passer à la rubrique Actu. Jingle.
Salut la compagnie, ça va ?
Pour cette rubrique Actus, c'est Didouille qui va commencer avec une actualité qu'elle va nous détailler.
Alors si je vous dis à Maison Stark,
oui.
Lannister,
ouais.
Greyjoy,
je vois vraiment pas.
Je vois pas trop.
Voilà, voilà.
Pas réel.
Et c'est dommage, de fer, tu pouvais gagner des points.
C'est Maggie encore, non?
Ah oui, on dirait bien.
Non, moi je vais vous parler en fait de Game of Thrones.
Ah, c'était ça,
c'est ça même. Parce que figurez-vous qu'il y a eu un article de fait dans le Nouvel Obs et dans le Midi Libre qui indiquait que Game of Thrones allait débarquer à Carcassonne. Alors moi, je me suis dit, dingue, c'est la série que nous regardons tous avec enthousiasme, débarque à Carcassonne. En fait, c'est l'initiative...
En fait, non.
En fait, c'est un titre un peu racoleur pour dire qu'ils avaient reçu la collection DVD. Okay.
Non, c'est à l'initiative d'un comité qui s'appelle As an Event et qui a créé le buzz en invitant des fans de Game of Thrones à venir participer financièrement à l'éventuel projet que de faire venir des acteurs et vivre à l'heure des maisons Stark, Lannister à Carcassonne. Alors ça se passerait le 14 et 16 mars.
Et,
2014, oui, tout à fait. Et cet événement est programmé au Château Contral. Qui pourrait attirer jusqu'à 1500 fans de la série.
Voire plus, à mon avis.
Voire plus. Mais en fait, vous allez sur Internet, sur la page de Kiss Kiss Bank.
Ah, carrément,
Kiss
sur Kiss Internet, Bank. Quoi.
Voilà.
Sur l'Internet.
Donc, en gros, KissKissBankBank.com. Alors, ça s'appelle Winter is Coming Con. Et il y a une présentation du détaillée du projet. Et il propose donc la première convention Game of Thrones européenne dans un lieu d'exception.
Et Carcassonne, ça s'y prête pas mal, je pense, avec les remparts.
Exactement, ça durerait 3 jours. Ça durerait 3 jours et en fait, je vous invite à vivre au rythme des conférences avec les acteurs de la série.
Alors, il y aura qui comme acteur de la série ?
Alors,
tout dépend
de l'argent.
Ouais, voilà. C'est clochard dans la forêt.
Tout le monde sait que l'argent est le nerf de la guerre.
Odor.
Est-ce que la Khaleesi sera là ?
Alors, bah, tout dépend de ce qu'ils auront.
Ah, ça, c'est
mais,
ça.
Moi, je viens que pour elle.
Moi, je veux Khaleesi. Moi,
en tout cas, si Khaleesi n'est pas là, sachez que Drogo, il sera. Le premier.
Drogo l'aime bien aussi, moi. Ça me parle plus, déjà.
Ou la reine Circé. Je veux bien Circé ou Khaleesi, moi.
Ouais, aussi Circé.
Celui qui a déjà signé, c'est Drogo. Donc, c'est Momoa, l'acteur.
Ah, c'est déjà moins sympa, Momoa, que Drogo.
Voilà. Et pour le principe, il y aurait déjà quatre autres acteurs qui seraient en lice. Donc, on ne connaît pas les noms, mais bien sûr, tout dépendra du.
Je me permets, ça j'adore sur les acteurs quand tu dis ça, c'est que souvent c'est les 3-4 figurants qui débrouillent.
Ouais, voilà. Oh, en même temps, Drogo, c'est un. Oui, mais Drogo, c'est une belle bête.
Mmh. Oui, mais il est mort à la première saison, donc.
C'est pas grave, il reste non, fort et beau.
Pour, lancer une convention, faut pas mais rêver non plus.
Hein. Non, mais il faut dire que l'objectif à atteindre. Japan
Expo, Comic Con, ça a commencé avec. Il y aura peut-être des acteurs de série B ou des auteurs de série B, puis finalement.
Tu lui as un coup de fouet, là.
À qui?
À toi.
Je me mets un coup de fouet.
Okay. Voilà.
L'objectif financier, c'est de réunir combien ?
75 000 euros et on en est qu'à 16 892 euros.
Ça termine quand ?
Sachant, c'est toujours ouvert. Hein,
Je ne verrai jamais la cale ici, je pense.
Alors, il faut savoir que vous pouvez commencer avec 1 euro et plus. Et juste, ça peut aller jusqu'à... Attention, parce que là, ça pique 1 500 euros et plus. Mais avec ça, vous avez un pass collector pour 3 jours. Avec le repas médiéval, un autographe de chaque acteur, une photo.
Donc quatre autographes.
Une photo avec chaque acteur, une photo de groupe et un pack famille de ton choix. Donc oui, alors ils ont sorti tout un packaging genre la main, la petite broche, les pièces des maisons. Bon, moi je suis allée sur internet. Hein, la main.
Wow, internet.
Non mais.
Avec ton modem 56K.
Je voudrais pas.
C'est super bien le modem 56K.
Pour 50 euros et plus, vous avez donc le tote bag avec le nom des membres de la famille que vous voulez et la broche de la main du roi. Mais pour ça, il faut lâcher 50 euros et plus, sachant que sur internet, cette petite broche coûte 9,90 euros.
Et t'es en train de replomber le truc là. C'est monstrueux ce que tu fais, c'est dégueulasse.
Non mais. Après, si t'es vraiment fan, tu mets 50 euros, peu importe de savoir si t'as une broche ou pas. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que bon, tout est prétexte pour. Mais reste que le cadre de la cité médiévale de Carcassonne est quand même assez exceptionnel. Si vous la connaissez pas, c'est celui qui a envie de passer des vacances, il y va pas pour rien. Il se dit tiens, au mois de mars, j'irai bien à Carcassonne et puis j'en profite, je vais à.
Non, mais l'initiative est plutôt.
Moi, je trouve que l'initiative est intéressante.
Est-ce qu'il parle du thème des conférences qui seront abordées ou pas?
Non, pas du tout. Là, pour l'instant, c'est un petit peu le point d'interrogation. On promet des choses, mais toujours en fonction des fonds qui seront récoltés.
Anthony ?
Moi, j'avais juste une question. En fait, bon, les personnes qui vont financer ça sont des particuliers. C'est organisé par une entreprise, c'est ça, qui veut faire venir les acteurs.
Oui.
Je trouve le principe, moi, un peu moyen, en fait, dans l'esprit de...
Un peu cavalier, non ?
Oui, de compter sur sur les fans pour développer
pour financer quelque chose.
Leur rapporter de l'argent.
Mais je pense qu'au
suite, ça a été fait il y a peu de temps, désolé de vous interrompre, mais comme ça a été fait il y a peu de temps sur un film, je crois que c'est Véronica Mars.
Exact.
Voilà, où ils ont fait appel... aux fans pour lancer la production du film, alors que c'est Warner.
C'est le gros problème du crowdfunding, selon moi.
Il y aura déjà discuté pas mal avec faire là-dessus, mais ce serait intéressant
d'accord là-dessus. Mais
il faudrait qu'on y revienne là-dessus, en fait. Ce serait intéressant.
Après, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème au niveau de nos dirigeants ou des subventions ou des choses comme ça? Il y a ça aussi, quoi. Ça fait peur parce que c'est un engagement financier qui est assez lourd. En même temps, les objectifs sont très hauts. Hein, le fait de vouloir faire venir des acteurs américains, parce qu'on aurait pu se contenter d'un simple jeu de rôle où on est chacun dans une maison et on vit à l'heure de Game of Thrones avec un banquet médiéval qui aurait peut-être pas coûté autant. Reste que ça fait du bien de temps en temps. Moi, je trouve des petites initiatives comme ça, enfin petites. Grosse initiative.
Les personnes qui investissent, si jamais l'événement ne
alors change elles
pas,
seront elles remboursées intégralement. Oui.
Est-ce qu'ils le font pour Maggie aussi avant que la question ne soit posée.
Je te remercie Anthony d'aborder ce sujet-là, sujet qui me tient à cœur d'ailleurs. Et j'espère qu'on pourra faire un podcast la prochaine fois sur Maggie.
Ça, je te le promets, Lulu.
Merci. Freddy. Merci à tous.
Non.
Tu veux des grands gestes. Il veut qu'on l'enchaîne. Ouais, c'est pour ça. Chiant lui.
Ah bah ouais, je suis le maître du temps.
C'est la boule et Passepartout réunis.
C'est la boule partout.
La boule partout, ça fait penser à un film.
On parle de mon passé.
Le sujet d'actu, moi, que je voulais aborder, c'était le début de l'aventure de Colibacille, qui est donc un feuilleton webophonique auquel quatre d'entre nous participons.
On se demande pourquoi on est tellement bon vivant.
Nous sommes quatre dedans, et notamment la starlette
qui a décroché le premier rôle.
Bravo.
Et donc, le premier épisode est sorti la semaine dernière. Pour l'instant, on n'est pas dans ces épisodes-là, mais ça n'empêche que ça met un peu la... Ça donne le ton du web feuilleton. Et enfin, pour avoir lu un petit peu le bouquin de Walter Proof, donc c'est vraiment quelque chose moi que je pense pourrait être très très sympathique. C'est quelque chose d'un peu foutraque. C'est un côté un mélange un petit voilà, c'est complètement décalé. C'est un mélange un petit peu de Pierre Dac, de Douglas Adams. Là, je suis en train de relire le Guide du voyageur galactique et je trouve que c'est un petit peu le côté complètement décalé avec des digressions dans tous les sens, un humour très particulier mais qui me plaît vraiment. Donc voilà, en tout cas, ça peut être très sympathique. Didouille, oui.
Alors moi, j'ai écouté aussi le premier épisode. J'ai pas encore fait de petites remarques auprès de Walter Proof.
Walt.
Mais je trouve que c'est vachement bien rythmé. Je trouve que les bandes son invitent vraiment.
Ah oui, les bruitages sont fantastiques.
Les bruitages sont super. La mise en situation, on plante le décor, tout est parfait.
Moi, je trouve juste on a que le son, mais on imagine vraiment bien.
Peut-être
je trouve.
Des petits temps morts trouvés, mais après c'est mon ressenti. Mais après.
Ils sont pas bien nous nos bruitages.
Je dingue, hein, tu penses à quoi?
Attends. Merci.
Ils sont parfaits.
Et le bruitage du gars qui est en train de manger un éclair au chocolat.
Je peux faire la nana qui mange un salambo.
Et moi j'avais une question, Nico.
Oui, Freddy.
Qui était une question un peu plus technique, mais comment ça se passe quand tu fais la voix? Tu fais de chez toi avec un micro?
Exactement. On s'enregistre. C'est ça qui est sympathique, c'est que on n'a aucune idée de ce qui va ressortir quand c'est publié en fait.
Ça veut dire que tu réponds pas à quelqu'un, mais tu dis un texte.
Exactement. Tu fais ton texte. Alors. On envoie les textes, Walter nous dit fais plus comme ci, joue plus comme ça, etc. Il nous recale un petit peu.
C'est
parce
ce que j'allais
lui,
dire, il y a un problème de ton peut-être.
Lui, il a son idée justement par rapport à certaines interprétations, etc. Et puis une fois que c'est fini, on reçoit le truc tout monté. Ça dure le premier épisode dure une douzaine de minutes. Et il y a 18 épisodes, je crois, de prévu, si je ne dis pas de bêtises. Et donc c'est une histoire finie. Donc on avait déjà participé à la Breluche Dorée l'année dernière, mais là c'est. Il y a beaucoup plus, il y avait 43 rôles, je crois, à attribuer. Enfin, c'est vraiment
c'est
quelque
vrai
chose
que
de sympathique.
Ça fout un peu les pétoches et la pression parce que on a vraiment des caractéristiques morales du personnage. On a brièvement.
Parce que tu joues qui, Didouille?
Moi, je suis anaphylactique.
Voilà.
Je suis censée avoir l'accent italien. Et que je dois perdre
Ludo,
en cours de route.
Fais-nous ton accent aussi.
Non, je vous le réserve.
Il joue le rôle
pour
d'un muet.
La prochaine fois.
Et pour la petite histoire, on a entendu le résultat du casting après l'enregistrement. Ouais. Le dernier enregistrement, on était tous autour en train d'écouter ça avec plaisir. Donc allez sur le site de Walter pour écouter un petit peu. Il y a pas mal d'essais, c'est sympa d'avoir.
Inaudible.com.
Il a dû se marrer à avoir tous les retours et puis pour faire son choix, ça devait quand même être quelque chose de assez sympathique. Mais donc voilà, je voulais juste revenir là-dessus et puis on reviendra peut-être dessus au fur et à mesure. Mais le premier épisode est sorti. Juste, je voulais juste revenir vite fait sur quelques actus à Rouen. Donc, je vais pas m'attarder plus que ça, mais la foire Saint-Romain a ouvert hier. Donc une foire, une fête foraine qui mine de rien rythme pas mal la vie.
Petit bolide, petit champion, petit pilote.
Rythme pas mal la vie de Rouen. Allez, c'est dommage, il nous manque Marius pour faire la voix fête foraine.
Justement, il n'est pas là parce qu'il tient
il est occupé,
un stand.
Tu crois
il est de les cousins cousines en fait.
Bonsoir, salut. Donc c'est pendant un mois sur les quais de Rouen. Donc,
et sur le parking 106. Ah non, c'est le cas.
Ensuite, aujourd'hui, en ce moment même, bon, ça va être un petit peu tard, mais il y a la Zombie Walk qui se déroule à Rouen. Donc,
à Rouen? Oui, aujourd'hui. Moi, je savais que c'était à Paris, mais
il y en a dans plusieurs villes.
Manu l'a fait à Rouen.
Et aujourd'hui, c'est à Rouen. Et justement, je voulais revenir dessus parce que Manu est parti en shooting aujourd'hui pour prendre quelques photos du défilé, donc des zombies dans Rouen. Freddy, oui.
Oui, je vais plomber un petit peu. J'ai oui dire une organisation un peu légère avec la sécurité qui n'était pas encore assurée dans la semaine.
Enfin, pourquoi? Parce qu'il y a eu...
Petit problème organisationnel, la sécurité qui n'était pas encore assurée. D'accord. Dans le cours de la semaine. Enfin, bon, j'espère que tout se passe bien.
Bon, mais... on verra bien. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir les photos de Manu qui seront certainement publiées sur sa page Facebook. Et enfin, une news coquine. Puisque le week-end prochain se déroulera le salon de l'érotisme. Alors j'ai vu hier soir les affiches, je savais pas. Alors c'est des affiches qui sont.
C'est Maggie qui est invitée d'honneur.
Un petit peu, voilà, c'est un petit côté kitschos. Franchement,
c'est génial. J'adore.
C'est pas hyper racoleur. Hein,
rien que l'affiche me donne envie d'y aller quand même.
Ouais.
C'est quand même.
Surtout en 4x3, ça jette. Quand même.
Les 2 et 3 novembre, le salon de l'érotisme se tiendra au Parc Expo de Rouen. Donc peut-être que parmi vous, certains
11 euros l'entrée.
11 euros l'entrée, par contre.
Ah, quand même.
Moi, j'invite Starlette à y aller.
Bah, moi, je vais sûrement y aller pour faire le jeu. J'ai testé pour vous le salon de l'érotisme.
Hein, moi, je trouve ça très alléchant.
Si je vois Maggie, je l'interview, je vous promets.
Tu ramènes des gadgets, des trucs
Bah, obligé. Ouais. Obligé.
Des trucs qui font...
Jacques Villeray.
Très bien. Donc voilà pour, pour ma partie actu. Je vais donc passer la parole à Freddy.
Oui, alors moi je vais vous parler d'une revue. Une revue en bande dessinée, je l'ai ramenée là. Alors évidemment on le voit pas quand on écoute la radio. Mais je vais vous le faire passer peut-être. Non, je vais commencer par enlever. Donc ça s'appelle La Revue Dessinée. La Revue Dessinée, c'est un magazine trimestriel, numérique et papier. Pour ma part, je l'ai acheté en librairie. On y trouve du reportage, des documentaires, des chroniques, le tout en bande dessinée. C'est très très bien, je vous le conseille. C'est pas de l'actualité chaude bouillante du fait divers. C'est une actualité un peu longue, avec des histoires très sympas, très bien racontées et évidemment très bien dessinées. Donc c'est tous les 3 mois, il y a 228 pages d'informations. Alors je l'ai dit, c'est en tablette ou en librairie. Je sais pas ce que ça donne sur tablette, j'ai pas eu l'occasion de regarder. Je pense qu'il y a du contenu ajouté. Donc le premier numéro est actuellement dans les rayons, je l'ai acheté la semaine dernière. Quoi vous dire d'autre
Est-ce que ce sont des histoires finies? Ou alors est-ce qu'il y a des histoires qui vont être récurrentes sur les revues suivantes?
Il y a une grande partie des histoires qui sont des reportages terminés, mais il y a aussi des histoires à suivre.
D'accord.
Ouais, c'est ça qui... Bon, ça donne peut-être envie d'acheter le numéro suivant, mais même sans ça, je pense que j'achèterai quand même le numéro 2. Quand même. Donc dans ce premier numéro, sorti en septembre, il y a 13 histoires, 13 façons de traiter l'actualité. Donc là par exemple on a l'agriculture, on a l'économie, l'environnement, l'histoire, les voyages. Et puis, alors ça tombe plutôt bien, puisqu'il y a dans ce premier numéro les dernières heures d'un certain Allende, président du Chili renversé par Pinochet le 11 septembre 1973. Le dessin est fait avec des traits très durs, à la fois épurés mais riches. Je sais pas, c'est un peu contradictoire, mais
non,
c'est,
mais je
c'est,
vois bien, je voyais le
c'est
dessin,
un petit peu l'idée que j'ai eue. Voilà, Didouille nous montre la version numérique. Je crois que notre invité Anthony a pu lire la bande dessinée qui...
Effectivement, je l'ai lue et c'est...
celle d'Allende, c'est ça.
Ce qui est bien, c'est que ça apporte véritablement les dernières heures donc, du président au moment où la Moneda est attaquée par les putschistes. Et c'est vraiment...
La Moneda qui est le palais présidentiel.
La Moneda, le palais présidentiel chilien, effectivement. C'est vraiment très prenant, très fidèle à l'histoire, et ça permet d'appréhender ça justement de façon un peu plus ludique, si vous me permettez l'expression. Donc c'est une bonne entrée en matière, et quand on ne connaît pas, ça peut donner envie d'aller plus loin, justement.
D'accord.
Voilà, donc une revue qui est traitée tantôt avec humour, tantôt avec gravité, mais avec un même fil rouge tout au long des pages, c'est transmettre les informations au lecteur. Le nourrir de connaissances, le sustenter, d'autres mots encore qui ne me viennent pas à l'esprit, mais encore d'autres superlatifs comme ça.
On voit ceux qui te viennent à l'esprit, c'est en rapport avec l'érotisme.
Ah oui, c'est ça, ouais, bon, on s'éloigne un peu. Oui, Didoui.
D'ailleurs, alors sur la tablette, on a déjà un avant-goût de ce que sera le numéro 2.
Oui, j'ai vu aussi sur le site internet.
Les plaies de Fukushima et les écoutes Made in France.
Et pour info, pour compléter, le format papier est à 15 euros.
Oui, j'allais y venir après. Oui.
Ah pardon, excuse-moi. Sur la tablette, c'est 3,59. Voilà, c'est juste pour info.
D'accord.
L'application est gratuite et après on achète visiblement les numéros à l'intérieur de la table. Mmh. C'est peut-être pour le premier numéro que c'est un prix d'appel, je sais pas.
Je sais pas.
Mais voilà.
Ce qui est intéressant, c'est que les styles sont très variés.
Exactement, j'allais y venir aussi. Mais
pardon.
Décidément. Alors, Mario, c'est pas là, vous me pourrissez ma chronique, c'est ça.
On va te fracturer ta chronique.
Moi-même, j'ai beaucoup appris à chaque histoire. Tiens, par exemple, est-ce que vous savez ce que c'est l'arrière-fumure? Ça vous dit quelque chose? Bah moi non plus.
C'est derrière la cuisse, non?
Et en fait...
c'est lié au gaz de schiste.
Voilà, c'est pas l'anatomie, c'est pas lié au gaz de schiste non plus. C'est en fait le pot de vin qui est accepté par tous, mais qui est illégal évidemment, puisque c'est un pot de vin, que doit verser l'agriculteur qui souhaite louer des terrains à un propriétaire terrien. C'est une pratique qui est courante, qui n'est pas connue de ceux qui ne sont pas confrontés. Et donc, on l'apprend très bien, on l'apprend dans l'histoire qui traite d'agriculture, où un reportage dans lequel on suit un jeune agriculteur qui souhaite louer des terres et qui est confronté à ce problème, lui qui n'a pas d'argent, et il essaye de contacter un avocat pour demander si c'est possible de dénoncer ce fait-là. Et non, c'est un fait, voilà, on ne peut pas passer à travers ça, quoi. Moi, je ne connaissais pas, je trouvais ça très intéressant. Donc, c'est un reportage de Manon Rescand, Damien Brunon et Sébastien Vincent. Ça s'appelle Le Prix de la Terre.
Dis-moi, ce sont que des reportages mis en bande dessinée,
c'est
ou
ça.
Ça peut être des fictions ou c'est...
La plupart du temps, ce sont des reportages. C'est le côté intéressant aussi de la chose.
D'accord.
Donc, vous l'avez compris, là, je suis complètement emballé par le concept. J'attends impatience avec le numéro 2 qui sort le 9 décembre. Une chose à savoir aussi, c'est que vous et moi, on peut même envoyer une idée de reportage qui peut être reprise par les auteurs, par les dessinateurs dans les numéros à venir.
Un truc sur Maggie ?
Par exemple. C'est à ça que je pensais, évidemment. Donc, ça coûte 15 euros, ça s'appelle La Revue Dessinée. Vous le trouvez chez votre libraire, sur votre tablette ou sur votre ordinateur. Le numéro 1 est toujours disponible. Le numéro 2 sort le 9 décembre. Le site internet www.larevuedessinée.fr. Voilà.
Ben, merci Freddy, parce que ça donne vachement. Moi, on en a parlé un peu avant l'enregistrement, ça me faisait penser à un autre projet qui s'appelle Papier, qui est porté par Lewis Trondheim, un auteur de BD, je crois, et qui est également a le format un petit peu ce qu'on entend MOOC, en fait, c'est-à-dire mélange magazine-book, en fait, parce que c'est vrai que c'est un format qui n'est pas ce qu'on trouve habituellement en librairie, le format 21-29-7 classique, etc. Ça fait 200 pages. Ça a vraiment un objet un petit peu presque de collection qu'on garde dans sa bibliothèque. En fait.
D'où certainement la différence de prix entre le papier et la version numérique.
Exactement, je pense que ça va jouer.
Joe Lamook, ça vient de là.
Mais en fait, la revue dessinée, bon, tu l'as très très bien vendue, Freddy, si tu me permets de te tutoyer.
Non, mais je te la prêterai, je ne vais pas te la vendre.
mais ça ressemble, enfin, en tout cas, y a d'autres projets comme ça qui existent ou qui sont à peu près similaires dans le... La revue 21, par exemple, qui mêle aussi dessin et reportage. Sauf que là, peut-être préciser que finalement, que c'est uniquement de la bande dessinée.
C'est uniquement de la bande dessinée, oui, tout à fait.
En tout cas, c'est un
et j'ai oublié d'en parler, il y a à chaque fin de reportage une page En savoir plus, qui est très intéressante, qui propose un livre, qui met des liens sur un site internet, qui fait une interview de la personne qu'on a retrouvée dans le reportage. J'ai trouvé ça très bien documenté et... notamment sur le reportage sur le Congo belge, j'ai vraiment eu envie d'acheter le livre. J'ai sûrement acheté le livre qui est présenté en fin de reportage.
D'accord, bah en tout cas, c'est vrai, comme dit Anthony, tu l'as très bien vendu, ça donne envie de se plonger dedans.
Je vous le prêterai.
Ah,
moi, j'aime l'odeur du papier.
Oui, voilà, c'est vrai aussi, ça.
Ouais. J'ai beau sans dire ma tablette, ça marche pas.
J'aime l'odeur du papier au petit matin.
Ben, merci, Freddy. Alors. Comme tout le monde n'a pas rempli le conducteur comme il fallait, je ne sais. Il me semble que Ludo a quelque chose à aborder dans l'actu, non ?
Oui, c'est juste une petite. Je voulais ajouter ça, c'est un peu en dernière minute, mais c'est en lien avec le sujet d'aujourd'hui, et je pense qu'Anthony est certainement déjà au courant, à mon avis.
Pas forcément.
L'OMNIA, qui dans le cadre de sa séance indépendante, programme. Fin novembre.
L'OMNIA Cinéma à Rouen.
L'OMNIA, pardon, oui, tout à fait. L'OMNIA, qui est un cinéma qui est classé d'art et d'essai à Rouen et qui a une programmation assez éclectique et thématique extrêmement intéressante et parfois assez pointue. Et il se trouve, en fait, qu'il programme pour fin novembre deux documentaires. Un documentaire qui s'appelle Septembre chilien, qui est un documentaire qui a été tourné en 1973 et qui racontait à chaud les journées qui ont suivi le coup d'État. Et ce sera accompagné d'un autre documentaire qui s'appelle Les Enfants des Mille Jours, qui est un documentaire récent, alors, qui lui s'intéresse donc, au thème des trois années de l'unité populaire du gouvernement révolutionnaire de Salvador Allende. Alors, je n'ai pas vu ces documentaires-là, donc je peux difficilement en parler, mais voilà, à l'occasion, je ne sais pas si toi, Anthony, tu en avais entendu parler ou si tu les connaissais déjà, et à la limite,
j'avais entendu parler de ces documentaires, et je vais avoir du mal à en parler aussi, parce que je ne les ai pas.
D'accord.
Malgré mon intérêt certain pour le pays, je ne peux pas tout voir ni tout
non,
dire.
Bien sûr.
Mais voilà, c'est avec plaisir que je me rendrai à l'OMNIA, qui a effectivement une programmation assez pointue pour certains sujets. Et ce n'est pas la première fois qu'ils diffusent des films chiliens. Ils ont généralement des films qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Ils arrivent à les avoir, ils arrivent à les valoriser. Et pour ça, il faut leur rendre hommage. C'est bien que des cinémas en centre-ville arrive encore à avoir cette démarche.
Je me trompe ou il y a déjà un réalisateur chilien qui est venu à l'Omnia, le cinéma rouennais ?
Effectivement, on a eu Christiane Jiménez qui était venue présenter Bonsaï, adapté d'un livre chilien, justement. Film que si vous ne l'avez pas
je
vu...
Je ne connais pas non plus, ah non.
Je vous invite vraiment à le voir. C'est vraiment, vraiment très, très doux, très tendre, mais en même temps très drôle.
D'accord.
Voilà,
Bonsaï.
C'est avec Coluche, ça, non ?
Ça fait du bien d'être au
Putain, les références, la bonjour.
Question de Madame Belper, de Loche.
En tout cas pour les personnes qui seraient dans le coin, qui seraient intéressées, c'est programmé les mercredis 20 et 27 novembre, samedi 23 et 30 novembre, et dimanche 24 novembre et le 1er décembre. Par contre, c'est à 11h du matin, c'est une séance unique, donc voilà.
Ah oui, c'est à l'heure chilienne, quoi.
C'est à l'heure chilienne. Bon, il y a le week-end quand c'est possible, voilà, mais... Voilà, c'était l'occasion de faire un petit focus là-dessus, à l'occasion de ta venue, Anthony.
Très bien. Mais je crois que c'est à Nico d'enchaîner, mais comme il peut pas non plus et servir les bières et faire l'enchaînement.
Alors, merci Freddy.
Merci Freddy pour.
Je suis à ma place, je vois pas de quoi tu parles. C'est à moi d'enchaîner. Il y avait personne d'autre qui revenait, parce qu'il n'y avait plus d'actu, c'est bon ?
Si, moi j'avais une actu. Donc je voulais revenir sur le dernier album d'Arcade Fire qui s'appelle Reflector. Qu'on peut trouver donc en streaming sur YouTube ou sur leur site officiel avant leur sortie, avant la sortie de l'album le 23 octobre. Et ce que je trouvais assez marrant, c'est qu'ils ont mis un espèce de film en toile de fond qui est des extraits ou la totalité du film de Marcel Camus, Orfeo Negro, donc Palme d'Or 59. Donc voilà.
Donc c'était pas 58, non, t'es sûr?
Peut-être 58 et demi.
Janvier 59.
58 et demi.
Palme d'or en janvier, oui.
Okay. Excuse-moi, je t'interromps, Christophe. Est-ce que c'est le film qu'on voit sur YouTube qui se passe en Amérique du Sud?
C'est ça, oui.
Alors, je me demandais si c'était la version officielle ou
alors moi,
un montage
amateur.
Alors,
moi, j'ai pas réussi à voir si c'était le film en totalité parce que le clip, finalement, fait 1h25. Donc, je me suis dit peut-être que c'est le film en entier ou des extraits. Je ne sais pas. Mais en tout cas, précipitez-vous si vous voulez écouter le dernier album d'Arcade Fire, parce que je crois qu'à partir du 29, ils vont forcément ils vont l'enlever, puisque il faudra l'acheter. Voilà, c'était tout.
Bah écoute,
merci.
Merci pour cette information. Allez-y, ruez-vous et puis faites-nous part de votre avis. On reviendra peut-être dessus la prochaine fois, en fonction des retours. Eh bien, on a fini pour la partie actu.
Là, pas trop tôt.
Ça va être le... Maintenant, nous allons laisser la parole, enfin, nous allons échanger avec notre invité, Anthony.
Nous avons fixé une doctrine. Les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Oh my goodness.
Merci Nicolas. On passe la parole à Freddy.
Non, oui, je voulais juste poser un petit peu le décor. Là, on est installés tous ensemble autour de la table. Il y a des bonbons, il y a des petits gâteaux et des religieuses, des petites tartes à l'amande très bonnes.
Oh, je sens que l'ambiance va refroidir d'un coup.
Et il y a aussi, il y a aussi un petit vin chilien dont le nom, j'ai oublié le nom, mais
le Concha y Toro.
Voilà. Peut-être on peut commencer par là, peut-être, puisqu'on est en train de le boire.
Les bières, elles sont chiliennes aussi, non ?
Non, les bières ne sont pas chiliennes. Ils ont de très bonnes bières, mais non, je n'en ai plus. C'est de la bière belge. Ouais, c'est du belge. Non, en fait, le vin chilien, effectivement, le Chili en lui-même est de plus en plus connu, notamment pour son vin. Qui a une spécificité particulière, c'est-à-dire qu'il a su préserver un cépage qui a disparu en France. Si ma mémoire est bonne, ça devait être au 19e siècle, en raison du phylloxéra. Le cépage carménère, donc, qui a pu se développer là-bas et qui a permis de faire connaître le vin à l'international.
Ben merci Anthony. Peut-être tu peux... te présenter, nous dire un petit peu les liens que tu as avec ce pays, puisque...
Je serais bienvenu sur le vin du Chili, moi.
Eh ouais, on a parlé du plus important, mais peut-être tu peux te présenter aussi.
Non, présenter rien, c'est juste une question complémentaire à ce que tu disais. Au niveau international, le vin du Chili, aujourd'hui, a gagné ses lettres de noblesse.
Et alors, comme la plupart des vins, finalement, internationaux, il y a eu le vin californien, il y a eu le vin australien. Il y a aussi un attrait, je pense, des amateurs de vin pour découvrir de nouvelles choses. Après, il faut séparer le bon grain de l'ivraie. On a l'avantage avec le Chili d'avoir du vin de qualité qui reste accessible en termes de prix et qui reflète vraiment le vin qu'on trouve là-bas, finalement. Le vin qu'on importe en France, c'est vraiment le vin qu'eux boivent également.
Ok, bien.
Désolé merci. Pour les blancs, j'ai pas encore vraiment
non, mais c'est pas grave.
Non, c'est du rouge, Anto.
C'est
du rouge.
David, on fait des chorégraphies, mais là, c'est parfait.
Donc, Anthony, qui es-tu?
Alors, je suis comme le spécifiait Nicolas tout à l'heure, je suis effectivement journaliste et à mes heures perdues, je suis un passionné du Chili. J'ai créé un blog d'information, d'actualité sur le Chili, Chili et Carnet. Je pense que les liens seront aussi.
On mettra les liens sur le.
Super, ça me
sur
le billet. Trafic, merci. donc voilà, j'ai découvert ce pays il y a quelques années maintenant, il y a un peu moins de 10 ans. J'ai eu la chance de le découvrir de l'intérieur avec des gens sur place qui m'ont présenté non pas le pays.
Par contre, Anthony, façon, parle bien dans ton micro.
Voilà, pardon. Voilà. Qui m'ont permis de découvrir le pays non pas de façon touristique, mais vraiment. Avec ses modes de vie, ses coutumes, etc. Et j'ai eu la possibilité d'y retourner plusieurs fois et je suis vraiment tombé amoureux du pays.
Mais pourquoi le Chili plus qu'un autre pays?
Ah ben, peut-être parce que ses amis étaient chiliens et pas argentins.
Pourquoi un coup de cœur et pas un autre?
Est-ce que avant d'atterrir au Chili, tu avais déjà fait plein de pays et c'est, et
oui, oui a... j'avais déjà pas mal voyagé. J'ai eu la chance de me promener, que ce soit en Australie, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Et c'est vraiment le Chili qui m'a séduit.
C'est les gens, la culture, les paysages, enfin c'est...
Alors, les gens, la culture, le paysage, la gastronomie, l'histoire aussi, qui est vraiment encore à vif, puisqu'on parlait de Pinochet tout à l'heure, on parlait d'Allende, finalement tout ça c'est pas si vieux, donc il y a encore les stigmates de cette histoire dans la civilisation actuelle, finalement, au sein de la population. Et c'est hyper riche. Les gens sont effectivement adorables. Il y a un vrai sens de l'accueil et des paysages sublimes.
D'accord.
Et donc tu y vas régulièrement?
Le plus souvent possible, parce que ça reste une destination assez chère pour ce qui est du billet d'avion. La vie sur place reste raisonnable. J'essaie d'y aller au moins une fois tous les 2 ans.
Et donc quand tu pars, du coup, du fait du prix du billet, tu pars longtemps, j'imagine?
Oui, je reste minimum un mois sur place.
D'accord.
Pour me promener, pour travailler aussi. Mais c'est un pays qui est très très long. On est vraiment sur un pays couloir, comme disait Roberto Bolaño. C'est 4200 km de long sur 300 ou 350 km de large. Donc c'est vraiment très très fin. Mais du nord au sud, il y a des milliers de choses à faire et j'en ai pas encore fait le quart de la moitié. Donc,
Et quand tu dis que tu y vas pour travailler, qu'est-ce que tu fais là-bas?
Eh bien, j'anime mon site internet, ce qui demande quand même pas mal de temps, parce que j'essaie de le faire avec le plus de sérieux possible. Moi, mon but n'est pas de relayer l'information que finalement on va avoir via les médias nationaux qui ont beaucoup plus de moyens que moi. J'essaie de trouver des sujets un peu originaux avec... des angles un peu différents, sinon je vois pas ce que je peux apporter de plus que Le Monde ou RTL, etc., qui récemment ont fait un papier que Nicolas m'a fait suivre il y a peu de temps sur un contrat signé là-bas par des entreprises françaises. Voilà, ça, tout le monde peut l'avoir. Moi, ce que j'essaie de trouver sur place, ce sont des sujets qui vont pas forcément intéresser les grands médias nationaux, mais qui peuvent apporter une vraie vision du pays, de la façon dont on le vit là-bas.
Ce qui n'empêche que tu proposes tes articles pour d'autres médias. Je pense à Itinéraire de la Foi, Bourg-en-Bresse, le magazine municipal de Bourg-en-Bresse, c'est ça?
Alors, le magazine municipal de Bourg-en-Bresse, on dit
Bourg-en-Bresse, pardon.
Ils insistent beaucoup là-dessus. Non, là, c'était une présentation du pays, c'était un carnet de voyage, c'était vraiment quelque chose de particulier. Pour Itinéraire de la Foi, effectivement, j'ai eu la possibilité, la chance de réaliser un reportage sur la religion au Chili. Ça, c'était vraiment passionnant parce que c'est un domaine... très important là-bas. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des avancées, si je peux placer les piges, mais bon, là, après, on est du domaine, le domaine, on va dire, privé, finalement.
Pardon, c'était pas déclaré.
Je fais tout au black. Toutes mes piges sont au black. Non, je plaisante, monsieur du Trésor public.
Moi, ce qui m'intéresserait, c'est, en tant que candidat total, c'est... est-ce que tu pourrais nous présenter, nous tracer les grandes lignes en fait de la récente histoire du Chili, histoire qu'on ait un petit peu une idée, un contexte, je dirais dans lequel se déroule l'élection présidentielle, enfin qui va avoir lieu prochainement, et le contexte un peu du coup d'État Pinochet, même si on peut dire, on revient toujours sur ce genre de choses-là, mais par rapport à avant, ce qu'il y avait avant le coup d'État et ce qui s'est passé, et les suites directes.
Est-ce qu'il y a toujours une influence sur la vie des Chiliens aujourd'hui?
Alors, il y a plusieurs questions en une. Hein. C'est, je pense que
on
va déborder un petit peu. Là, il va falloir un peu plus d'une heure et demie. Non, plus sérieusement, le contexte actuel. C'est vrai que l'élection présidentielle, c'est dans. Nous sommes le 26 octobre, une date que je retiens bien. C'est dans une quinzaine de jours maintenant. On a 9 candidats en lice, dont 2 candidates qui sont à peu près assurées d'être au second tour. On a Evelyne Matthei pour la droite, on a Michèle Bachelet qui est l'ex-présidente pour la gauche, voilà, la gauche et le centre. Alors, comment on en arrive là ? Michèle Bachelet était donc présidente de 2006 à 2010. Et au Chili, on ne peut pas être président 2 fois consécutives. Donc, il y a eu une très mauvaise campagne de la part de la gauche, un très mauvais candidat qui a été présenté, et la droite est passée, ce qui n'avait pas été... c'était la première fois depuis la fin de Pinochet. Sauf que le président actuel, Sébastien Piñera, s'est retrouvé confronté au problème du tremblement de terre de février 2010, qui a été meurtrier, je pense que vous vous en souvenez, un tremblement de terre suivi d'un tsunami, donc il y a eu des milliers de morts, et il n'a pas pu du tout mettre en œuvre le programme qu'il avait prévu, puisqu'il a fallu faire face à la reconstruction du pays. Donc il y a eu ça, il y a eu ensuite le retour du mouvement étudiant, qui est très virulent et qui, en fait, vise la gratuité des cours, en fait, des études, puisque les études au Chili sont très très chères, donc il y a vraiment énormément d'inégalités à ce niveau-là.
J'ai lu qu'il avait lieu tous les ans, c'est vrai, ce mouvement étudiant ?
Alors, il a lieu, non pas tous les ans, mais très régulièrement. C'est-à-dire que ça peut être... Il y a des manifestations très régulièrement au Chili. Ça peut être deux fois par semaine, 3 fois par semaine. Mm. Ce qui, en revanche, a été moins signalé, c'est que ce mouvement étudiant n'est pas neuf. Il date pas de 2010. Il n'a pas démarré sous Piñera. Il a démarré déjà sous Michel Bachelet. Et il y avait des prémices déjà du temps des anciens présidents chiliens. C'est-à-dire que c'est un problème qui date de l'ère Pinochet, qui n'a jamais été résolu aujourd'hui. Et c'est là où je voulais en venir justement, c'est que le pays continue de vivre avec la constitution pinochetiste. C'est-à-dire que, effectivement, dans les faits, on est dans une démocratie, mais pour tout ce qui est législation, je pense aux Indiens Mapuche, par exemple, sont encore persécutés suite aux lois pinochetistes qui ont été décidées durant la dictature.
La fin du régime Pinochet, c'est quoi ? C'est lié à la fin du soutien par les Américains du régime en gros,
c'est quand déjà ?
Voilà, parce que Pinochet, on sait, 73, jusqu'à... Il y a eu plusieurs
1990,
étapes.
En fait, ce qui s'est passé... Il y a un très bon film qui est sorti récemment, d'ailleurs, qui s'appelle No. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Non.
C'est très, très bien.
No.
Ça raconte l'histoire... alors, le personnage, lui, n'existe pas, mais c'est l'histoire d'un gars qui bosse dans la pub et qui est recruté par le camp du non au Chili pour valoriser le non. Le non, c'est quoi ? C'est non à Pinochet, tout simplement. Parce que Pinochet est arrivé par les armes, mais ensuite, il a été conforté plus ou moins démocratiquement aussi. Bon, il y a eu beaucoup de pression, il y a eu beaucoup de tortures, il y a eu beaucoup d'opposants qui ont été emprisonnés, qui ont disparu. Enfin, donc c'était le règne de la terreur, sans vouloir galvauder l'expression.
Et est-ce qu'il a envoyé des minibus dans les quartiers de Santiago pour faire venir des électeurs
Toi, tu fais de la politique intérieure
marseillaise.
Hein, tu viens de me casser mon effet. C'est nul.
Freddy, vraiment. Hein. Donc, mais sur le no, je dis peut-être une bêtise. T'as pas fait un billet dessus il y a pas longtemps?
J'ai fait un billet effectivement, parce que le DVD est sorti et je vous conseille vivement de voir le film, parce que qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas l'histoire, il est vraiment très très bon. Je l'ai montré à des personnes qui ne connaissaient pas du tout l'histoire. Il est vraiment très propre.
Il se regarde même hors contexte, entre guillemets. Exactement. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'être passionné du film.
Expert. Un prix, ce film, ça me dit.
J'en avais pas entendu parler.
Mais je t'invite à lire Chili et Carnet.
En fait, je voulais arriver au podcast un petit peu.
Vierge, tu as dit tout à l'heure.
Voilà, exactement. Mais tu bois ses paroles.
Vierge du Chili. Moi, ce qui m'intéresse, c'est...
Tu bois pas que ses paroles.
C'est clair. Parce qu'en fait, tu dis Pinochet est arrivé par les armes, donc régime de la terreur, donc évidemment, torture, oppression, etc. Le moment où ça bascule, tu parles de 1990, en fait, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça bascule ? C'est-à-dire que ça se fait dans la violence, ça se... Parce qu'à partir du moment où on peut supposer que le régime est en place, il n'y a pas vraiment de raison qu'il bouge, sauf s'il n'a plus de soutien financier, sauf s'il y a une révolution, sauf si...
Alors justement, ça ne se fait pas dans la violence. C'est pour ça que je rebondissais sur le film Mono, c'est que ça retranscrit très bien le mouvement d'époque. Non, ça se fait par les urnes. C'est-à-dire que Pinochet est tellement sûr de lui, tellement sûr de pouvoir arriver à rester à la tête du pays, qu'il lance un référendum pour dire voilà, est-ce que je me représente ou pas.
Oh le con.
La seule question c'était est-ce que vous voulez que Pinochet se représente? Oui, non.
D'accord. Donc, c'est ça donc le fameux no, c'est
voilà,
ça.
Voilà, le fameux no. Le clan du oui misait justement sur le l'aspect bah, voilà, on a peur de Pinochet. Tout le monde a... Et puis finalement, il y a beaucoup de gens au Chili qui se disent aussi que Pinochet n'a pas fait que du mal au pays. C'est ça qui est intéressant à voir là-bas, c'est que ça reste un sujet assez compliqué à aborder, puisque personne ne sait vraiment sur quel pied danser vis-à-vis de son voisin. On a beaucoup parlé en France en 73, je n'y étais pas, mais je me suis renseigné effectivement des morts dans les rues, etc. Quand on parle de ça avec des gens au Chili, avec des Chiliens, pour eux, certains nous disent oui, non mais. Ok, Pinochet, oui, c'est vrai, il y a eu des morts, mais d'un autre côté, on avait du travail. D'un ouais. autre côté, on avait de quoi manger. D'un autre côté, le pays avait une vraie image à l'étranger.
T'as le même sujet pour l'URSS. Hein.
Je pense que toutes les dictatures, finalement...
Est-ce que, en fait, ils avaient une sacrée image à l'étranger, quand même, au moment de la dictature Pinochet. Ça.
Est-ce que ça veut dire que, donc, avant Pinochet, sous Allende, c'était vraiment moins bien, c'est-à-dire qu'il y avait de la pauvreté, il y avait une absence de développement ou pas?
Alors, le pays avait du mal à exploiter ses richesses. Allende, autant pour moi, a voulu nationaliser tout ce qui était mine de cuivre. Et c'est ce qui aurait permis, justement, aujourd'hui, d'avoir une éducation gratuite, d'avoir un système de santé performant, de vraiment rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Ce qui n'était pas du goût de tout le monde, notamment de la CIA. Les Américains ont largement appuyé les putschistes en donnant les moyens aux syndicats de camionneurs de bloquer complètement le pays, de faire circuler des rumeurs, enfin, et puis en armant les militaires, en permettant aux militaires voilà, de se lever un matin, de prendre les armes, de prendre les avions de l'armée chilienne et d'aller bombarder directement le palais présidentiel.
Donc, que le président avait été élu démocratiquement au Chili, enfin, juste à préciser quand même.
Avec vraiment une fougue populaire. Il y avait un véritable emballement pour Salvador Allende, qui n'était pas un nouveau venu en politique, hein, qui s'était déjà présenté plusieurs fois avant et qui avait échoué à devenir président, mais il était porteur d'un véritable espoir.
On sait si les Américains avaient mis le portable de Allende sur écoute à l'époque.
Ils avaient mis une caméra dans ses lunettes.
Ah ouais,
ah, carrément. Ah oui.
C'était l'administration Nixon à l'époque, c'est ça?
Exactement. Et Kissinger.
Oui, c'est ça.
Une très bonne BD qui est sortie récemment. Je n'ai plus le nom de l'éditeur en tête. J'ai peur de dire une bêtise, mais la BD s'appelle Kissinger et nous. D'accord. Et ça raconte les dernières années. Les derniers mois du régime de Salvador Allende, mais vu par ses gardes du corps et par sa garde rapprochée.
Eh bien, comment au niveau de l'administration américaine, ils ont continué à soutenir le régime, ils ont continué à le soutenir tout au long de ces années, enfin, jusqu'en 1990. Comment ça s'est déroulé après?
Ils ont continué. En fait, c'est devenu une terre d'expérimentation pour les États-Unis. C'est-à-dire que toutes les mesures économiques étaient testées là-bas. Il y a eu ce qu'on appelle le principe des Chicago Boys. Hein. C'est-à-dire
c'est quoi ça?
C'était une
l'école de Chicago
voilà, qui était formée et qui grosso modo conseillait le gouvernement pinochetiste pour tout ce qui était mesures économiques. Donc ça les a incités à privatiser les mines de cuivre notamment, qui sont quand même la plus grosse richesse du pays. Et à s'asseoir sur un sacré paquet de monnaie, quoi.
Et le moment où le Chili bascule en 90, à ce moment-là, les États-Unis, eux, restent du coup.
Quelle position?
Les États-Unis ont changé de président entre temps. Enfin voilà, l'administration américaine a aussi évolué.
La guerre froide est terminée aussi.
Voilà, on n'est plus du tout dans le même contexte politique, dans le même contexte économique. Donc,
excuse-moi, ils voulaient pas d'un deuxième Cuba finalement en 73, c'est un peu l'idée ou c'était.
Alors, il y avait, y avait effectivement la peur de voir le communisme arriver au Chili. Il y avait une forte propagande juste avant le coup d'État où le journal El Mercurio, qui est le journal, on va dire, le plus gros tirage au Chili, était devenu un peu le journal de la propagande, où ils ont mis en une un photomontage avec des chars russes devant la Moneda pour dire voilà, est-ce qu'on veut de ça dans notre pays? Non, on n'en veut pas. Donc là, c'était devenu du grand n'importe quoi, et vraiment derrière, les Américains étaient largement présents.
Ah, moi j'ai une question sur cette période des années 90. J'ai lu que la gauche française s'est inspirée de ce qui se passait au Chili à ce moment-là. Est-ce que c'est vrai?
C'est ce qui se dit, effectivement. J'ai lu la même chose. Maintenant, là, je sais pas les tenants et les aboutissants pour savoir dans quelle mesure ils se sont inspirés de ce qui avait pu être fait. Et vu, enfin, on va pas rentrer dans le débat, mais est-ce qu'ils ont bien fait aujourd'hui, je sais pas.
En allant voir ton blog, j'ai vu, tu avais fait une note sur le suicide d'Allende qui serait aujourd'hui donc bien officialisé, confirmé. Oui. Parce qu'il y a eu vraiment un doute jusqu'à
il y a très peu de temps. J'ai plus la date exacte en tête, mais effectivement, le médecin légiste dans son rapport. Laisser planer le doute, en ce sens où il y avait plusieurs impacts de balles, et vraisemblablement le suicide est confirmé puisqu'il aurait utilisé une arme automatique pour se suicider, donc plusieurs coups seraient partis quasiment simultanément.
Voilà.
C'est joyeux. Hein.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, on aborde un peu des sujets géopolitiques, etc.
Je vais prendre un morceau de macaron, moi.
Mais voilà, le Chili, ce n'est pas que ça, il y a aussi. Ah bon, d'accord, ok, bon, je passe à mon autre question.
Sur ton blog, tu fais mention de la volonté de rebaptiser un certain nombre de rues qui s'appelle la rue du 11 septembre. Oui. Et donc, j'ai pas forcément tout saisi parce que chacun s'attribue la date du 11 septembre pour des choses un peu différentes. Quoi.
Voilà, pour le 11 septembre. Alors, ce n'est pas que le 11 septembre 2001, hein, que le World Trade Center, le 11 septembre 1973,
c'est le
coup d'État de Pinochet au Chili, donc sur la Moneda. Alors, il y a effectivement des rues au Chili qui s'appellent rue du 11 septembre. Alors, on peut penser, quand on y va en tant que touriste, que ça s'appelle comme ça, parce que c'est pour commémorer justement cette date funeste pour le pays et pour le président élu démocratiquement, mais pas du tout. En fait, ce sont des rues qui ont été baptisées ainsi à la gloire du coup d'État. D'où l'ambivalence aujourd'hui pour les victimes qui réclament de débaptiser ces rues. Et il y a eu une première dans la région de Santiago.
Excusez-moi.
La gamine qui joue.
Je fais des blagues avec le chocolat dans les dents, j'adore.
Pardon. On mettra pareil dans le billet du plan.
Non, mais ça dédramatise un peu parce que j'ai l'impression de plomber l'ambiance.
Pas du tout. On sait combien il y a de disparus à peu près.
J'ai plus les chiffres en tête, mais oui.
C'est plusieurs milliers.
C'est plusieurs milliers. Je l'avais écrit dans un papier, effectivement.
Oui. Je l'ai vu.
j'avais vu un film, ça remonte à
Missing, peut-être.
Comment?
Missing.
Non, c'était le film de Roman Polanski, La jeune fille et la mort. C'était avec Sigourney Weaver. Et Ben Kingsley, qui en fait, c'est un film qui était tiré d'une pièce de théâtre en fait d'un auteur chilien. Je me souviens plus le nom, mais c'est pas très grave. Eldman peut-être. Bref, en tout cas, et justement où le tout le film tournait autour d'une rescapée des exactions chiliennes. C'est quelqu'un qui avait été torturé pendant ces années-là et qui des années plus tard, se retrouver confronté avec son propre bourreau. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir ce film-là. C'est un film qui date de 94.
J'ai pas vu le film.
On l'a vu ensemble.
Magnifique.
Et en fait, le film était intéressant. Je me permets, je fais une petite digression, mais c'est un film vraiment, vraiment intéressant. Où, en fait, donc ça se passait évidemment après la dictature de Pinochet. Et une commission était montée, si tu veux, pour par rapport aux anciennes, aux victimes de ces exactions-là. Et l'avocat qui est chargé de présider cette commission ramène un jour, enfin tombe en panne, et un docteur le ramène chez lui, l'aide, et le ramène chez lui. Et en fait, la femme de l'avocat va reconnaître la voix de son bourreau, en fait. Et notamment, elle va surtout reconnaître va reconnaître la voix. Et pourquoi la jeune fille est la mort? Puisqu'en fait, ce bourreau-là, quand il torturait, aimait mettre la musique et la mort, qui était la jeune fille et la mort, qui était une pièce de Schubert. Et donc, voilà. Et
la glauquitude du truc.
Et c'est un film terrible, puisqu'en fait, la question était sur la vengeance.
C'est un huis clos,
parce qu'elle décide de le séquestrer et donc de le faire avouer. Et c'est vraiment un chouette film, si vous avez l'occasion de le voir, et qui revient sur ces années-là. Sans que le film soit jamais cité, nommément en réalité d'ailleurs.
Ah oui. Freddy, oui. Tu voulais prendre la parole?
Ah, pas du tout.
Ah, pardon, c'est Delphine en tête.
Ouais, on nous confond souvent.
Non.
C'est Didouille.
Ouais, alors moi, je suis une fille.
Semblant, on a parlé
ils ont déconné.
Je t'avoue que je me suis trompée quelques fois, j'ai eu un doute.
On a goûté.
Ça, c'était dans la rubrique Révélation, Didouille, tu t'es trompée.
Non, mais on a goûté un magnifique vin. Et je voudrais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Anthony. Je l'ai bien entendu que tu as parlé de la gastronomie chilienne.
Oui, mais moi aussi, je l'avais
cette question. Et depuis tout à l'heure, je crève de savoir...
Qu'est-ce qu'on bouffe
Non, mais les spécialités, si effectivement la patate est quand même un ingrédient principal dans... Et le maïs.
C'est un truc qui pousse dans les arbres.
Non, mais ils font énormément de plats mijotés, de choses comme ça. Et donne-nous envie avec un truc exceptionnel.
Après la géopolitique, peu le
alors
côté.
Moi, je suis une gourmande,
mais revenir un
ça.
Petit peu sur des.
Et je suis
des
un gourmand aussi. Et je vais être peut-être même plus à l'aise encore pour parler de, parler de gastronomie. Non, les Chiliens adorent manger, ils adorent partager des grands repas. Avec les voisins, avec la famille, etc. C'est leur grand truc. Ils mangent tout le temps. Leur grande spécialité, qu'on trouve aussi d'ailleurs en Argentine, c'est l'empanada. L'empanada, c'est un beignet, un chausson fourré à la viande avec... ça a été cuisiné avec des petits oignons, c'est
des haricots rouges.
Non.
La viande hachée. Non. Viande hachée.
Merci.
Du maïs. Des pototes.
De la potée auvergnate aussi. Ils font ça, ils font le pastel de choclo. Alors ça, c'est... Pardon, je parle dans le micro, sinon je vais me faire fouetter. Le pastel de choclo.
Parce que tu le demandes.
C'est pas c'est le truc de poulet avec de la
pas
farce.
Pas du tout. Mais
et des haricots rouges ou pas
faire. Bon, les filles, vous avez l'air d'être au taquet. Mais non, alors là, vous avez préparé
des
petits oignons.
La chantilly, des clémentines,
avec
des aubergines.
La viande hachée. Et c'est très bon. C'est bourratif, mais c'est super bon. Ils font beaucoup. Après, la gastronomie varie vraiment du nord au sud.
Oui, j'allais dire, c'est aussi en fonction de là où tu te trouves. Parce que le pays, on n'a pas toujours le même paysage. Donc, on n'a pas les mêmes possibilités au niveau des cultures et des choses comme ça. Donc
voilà, et puis, c'est vrai que dans le sud, par exemple, ils font ce qu'ils appellent le couranto. Alors, le couranto, ce n'est pas une maladie.
Alors, j'ai ton sac à côté de moi. Ce n'est pas une maladie. T'en as pris, non, c'est ça? Ça sent super fort, là. C'est ça ou pas?
Non, ça, c'est mes affaires de sport. Donc le couranto, c'est un mélange terre et mer. C'est-à-dire, ce sont des fruits de mer, mais des fruits de mer... qu'ils ont été pêchés à Fukushima, tellement ils sont énormes, avec des saucisses. Et
tu les vends bizarrement quand même.
Ah oui, non, mais c'est vrai que la première fois qu'on voit une moule chilienne arriver sur la table, ça fait
un peu
bizarre.
Ah, moi j'en ai connu.
Je savais que ça vous ferait rire. Je le savais.
Moule chilienne, je peux te dire que avec des saucisses, c'est délicieux.
Non, on la partage avec les copains, tout. Enfin, on cueillait à plusieurs dessus. C'est... Là-bas, on l'appelle la Daniela.
Qu'est-ce que la différence de la moule française
hein? C'est qu'on peut s'y mettre à trois. elle est beaucoup plus grosse, effectivement. Voilà, ce sont des moules beaucoup plus imposantes. Et
Vas-y, non, mais... Ah, mais
je suis en train de m'enfoncer.
Anthony sera en représentation au salon de l'érotisme. Instant de Chili.
Donc voilà, le couranto, je finis là-dessus parce que c'est vraiment excellent et en fait c'est une préparation qu'on ne trouve vraiment que du côté dans le sud du pays et notamment du côté de l'île de Chiloé qui est un petit espace vraiment coupé du monde et magnifique. Enfin, si vous avez l'occasion, allez-y.
Tu dis que
Delphine, oui, Starlette,
oui. Toi, tu aimes tout le Chili ou tu préfères le Chili du Nord, le Chili du Sud, vu que tout est différent en fait? T'as une préférence ou pas?
Alors, je parlais de Chiloé à l'instant et c'est vraiment le coin du Chili que je préfère. C'est resté très sauvage, par son côté insulaire, forcément. Mmh. Donc on retrouve vraiment les petits villages de pêcheurs, les petites villes vraiment tranquilles, la gastronomie à l'ancienne.
C'est loin de la côte ?
Non, c'est à une demi-heure à peu près de bateau.
De nage, finalement. Pardon, oui.
Sur des bateaux, là-bas. Ah, j'ai une question à ma droite.
Deux questions à ta droite.
Ah, il y a des questions, là. Ça s'agite.
Bon, bah, allez-y.
Ça s'agite. Bon, allez. Mister Lulu. Pour rebondir sur la question de Starlet, en fait, je suis touriste et je décide d'aller... Je veux aller au Chili, je veux visiter. En fait, ça va recouper ta question, mais les premières choses que tu conseilles de faire pour découvrir le Chili, enfin, les premières étapes. En gros, si je devais y aller demain, qu'est-ce que tu...
Combien de temps ?
Une semaine.
Tu y vas ?
Une semaine, c'est court.
Ouais,
une
mais
semaine.
Justement, allons droit aller, au but.
Alors, une famille de 4 avec 10
jours,
deux ados.
Allez, coupe pour la poire.
Quel budget ?
Bah justement, dis-nous, parce que c'est intéressant de savoir.
Alors, la meilleure période pour partir, déjà.
Alors,
la période,
on est dans l'autre hémisphère.
Le budget.
Les saisons sont inversées, hein, c'est-à-dire que janvier, là-bas, c'est
l'été.
Le plein été. En sachant que dans le sud, la météo est vraiment difficile à prévoir, puisqu'ils peuvent avoir les 4 saisons en une journée. Hein.
C'est comme ici, alors ?
C'est un peu comme la Normandie.
4 saisons, tu veux dire en...
Quasiment en une journée. Je parle pas du morceau.
Vivaldi des Chiliens.
Ni de la pizza.
Vivaldi
was a Chilean. Non, on peut passer d'un magnifique soleil à des pluies torrentielles, à un froid de canard et revenir sur une ambiance printanière. Enfin voilà, c'est assez perturbant. On ne sait jamais comment s'habiller quand on se promène dans le sud. Mais sinon, alors en une semaine, une famille qui irait au Chili, il faut déjà passer par Santiago, parce qu'il y a vraiment des choses superbes à voir.
C'est une belle ville ou une ville typique ?
Alors, c'est pas une belle ville. Concrètement, c'est pas, voilà, on n'est pas, c'est pas Paris, c'est pas, voilà, y a pas de... Mais il y a quand même toute l'histoire qui est encore bien présente, déjà pour aller à la Moneda, mais il y a aussi le Cerro Cristobal à visiter. Il y a différents quartiers qui sont vraiment très très sympas. Il y a des bars typiques où on a encore des musiciens qui viennent jouer, etc. Des choses à goûter. Enfin, déjà Santiago, il y a de quoi faire.
Oui, je profite juste une petite parenthèse. J'ai eu la chance de lire un livre de Ramón Díaz Heterovic, qui, je le prononce bien, ça va ?
Heterovic,
pardon. Qui se déroule justement dans le Santiago, que moi j'ai découvert à travers ce livre et qui me paraît une ville, pas une ville touristique justement, mais des quartiers un petit peu sombres, avec des bars un petit peu atypiques.
Santiago est une ville relativement sûre, hein. Le Chili n'est pas un pays...
C'est pas la Colombie,
c'est pas le Brésil non plus. On est dans un espace quand même assez, assez sûr, mais c'est vrai que c'est une ville qui a gardé... des aspects très populaires. C'est une capitale qui a encore des aspects très populaires.
Est-ce que c'est pas comme toutes les capitales finalement, non ?
Moins Paris, je prends l'exemple, où là, voilà, il y a le côté luxe, représentation de la France,
ouais,
etc.
Dans Paris,
très touristique.
Oui, voilà, ouais, mais t'as quand même un côté de Paris qui est pas glamour non plus.
La place Vendôme, c'est pas super glamour, par exemple.
Franchement.
Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais dans l'esprit, non, ça reste beaucoup
tu
plus.
Tu trouveras pas de Starbucks café à Santiago, c'est ce qu'il est en train de dire.
Ah, d'accord, mais expliqué comme ça.
T'as quand même, la forcément un mal. Tu es arrivé jusque là, tu as des Burger King.
Super.
Un truc qu'on n'a pas en France.
Alors, avec Ludo, c'est ce qu'on aime pas forcément. Quand on voyage, c'est tout sauf ça. Nous, on veut le truc typique.
Alors justement, si vous voulez.
Oui, mais des fois, c'est bien d'avoir le truc que tu connais.
Et une fois que vous êtes allé à Santiago, ensuite, vous louez une voiture, vous prenez un bus, parce que c'est très très bien desservi par le bus. En revanche, très peu par les trains.
Enfin, le bus pour aller du nord au sud, ça doit quand même être un peu... Ça forme la jeunesse, quoi. Ah oui, d'accord,
que dans Santiago. Parce qu'en fait, à 1h30 de Santiago...
C'est son côté autoritaire.
Après, t'as Valparaiso.
Ah oui, d'accord. Et alors,
c'est ce que je voulais parler.
Sur le bord de Valparaiso.
Il y a des cyprès colombiens, enfin les...
Il y a énormément de choses à faire. Il y a la maison de Neruda. Il y a énormément de choses à faire.
C'est là où il faut monter tous les escaliers.
Exactement, il y a les ascenseurs aussi qui peuvent permettre de grimper plus rapidement et puis de profiter du panorama. Là, ça vaut le coup d'y aller. Il faut aller dans tout ce coin-là, il y a des choses à faire. Après, c'est vrai que sur une semaine, vous n'aurez pas le temps de faire tout le pays. Hein. Concrètement,
forcément,
si vous voulez plus... Si vous voulez...
C'est 10 jours, il faut au minimum pour moi.
Même pas pour voir tout le pays.
15 jours, semaine, oui, c'est ça. C'est... 15 jours, 10 jours, c'était 15 jours.
C'est vraiment... C'est très, très vaste. Hein. Donc, Si en plus on prend le parti de le faire en voiture, ce que j'ai
fait. Mais enfin, oui. Déjà, la France, tu l'as fait pas en 15 jours. Donc le Chili, j'imagine, vu la hauteur. Non,
on peut se promener, effectivement.
En voiture, du coup, tu peux prévoir un circuit.
Voilà, c'est ce que je me suis fait la dernière fois que j'y suis allé. J'ai eu envie de voir un peu plus le Nord.
Excusez-moi. Un petit rototo, c'est pas grave.
C'est le Chili, ça.
Un petit remonte de Chili, là.
Mais non, concrètement, il y a quand même. Une route, la route 5, qui traverse tout le pays, qui dispatche finalement après vers les grandes villes. Ça permet d'avoir un repère à chaque fois et puis de se dire, bah tiens, à tel endroit, je peux m'arrêter. Et finalement, à la base, je m'étais fait un petit programme pour visiter telle ou telle ville et je me suis arrêté au gré du vent et j'ai découvert des choses vraiment, vraiment très, très, très sympas et inattendues.
Il paraît qu'au niveau loisirs, excuse-moi, je
vous prends la parole,
on ne peut pas passer à côté du karaoké.
Il m'a dit va toutes les deux. Starlet, là, elle bondit dans le prochain avion. Okay. Là, elle
est grave, on y va. On laisse le gamin, on les prend pas.
Ils aiment beaucoup les chansons françaises, je confirme.
C'est ça.
Je confirme.
Donc, toi, avec Aznavour, tu fais un carton là-bas.
Il a fait
un carton.
Gilbert Bécaud.
Gilbert Bécaud, encore mieux.
Et Mireille Mathieu, j'imagine, comme elle fait toutes les. Non ?
Non, là-bas, c'était Et maintenant de Gilbert Bécaud qui était.
Bon, alors, est-ce que tu peux nous interpréter Et maintenant de Gilbert Bécaud ?
En français, pas en chilien, par contre.
Vas-y, fais péter.
Et maintenant, que vais-je faire tout, tout.
Voilà. Franchement,
ça mérite vraiment les applaudissements.
Et Nathalie, la fond quand même, Nathalie.
Non, mais j'avais, je vais pas rentrer dans les détails de ma vie privée, mais je me rappelle plus de toute la musique que j'ai écoutée ce soir.
toute la musique que tu aimes.
Ah, tout ça pour dire, on peut faire la fête comme il se doit au Chili.
Les Chiliens sont très, très accueillants. Vraiment.
Est-ce que tu as beaucoup de touristes en fait, est-ce que c'est un pays très touristique ou c'est reste un pays encore préservé quand je dis préservé, c'est préservé de la masse, tu sais, du tourisme de masse. Voilà,
c'est encore préservé du tourisme de masse, pour reprendre l'expression idoine. J'aime bien passer des mots comme ça. c'est encore préservé, mais le pays se rend bien compte qu'il a des choses à valoriser, qu'il a des atours, et ils sont en train de mettre le paquet justement au niveau touristique pour faire venir de plus en plus de monde, notamment dans certaines régions chiliennes qui sont sauvages, la Patagonie, etc. Voilà, je vous écoute, il y en aura.
Didouille, vas-y.
Alors maintenant, tu nous as donné envie avec certains plats chiliens. Le truc le plus insolite que tu aies pu manger, ou qui ne donnerait pas envie de manger, mais qui pourtant est vachement bon. Donc,
ça peut être autre chose que la moule dont on parle.
Outre la moule chilienne, effectivement.
Alors, il y a une chose que moi j'aime beaucoup, mais que j'ai fait goûter à pas mal de Français qui à chaque fois m'ont dit on va pas manger ton tapis. C'est du charqui. En fait, le charqui, c'est de la viande de cheval ou de bœuf séchée.
Séchée, oui.
Séchée. Ça ressemble vraiment à l'odeur. Déjà, ça sent la nourriture pour poisson. C'est vrai que c'est
la moule chilienne, un peu.
J'ai dit que j'aurais du succès avec celle-là. Ça faisait 15 jours que je la préparais. Et ça ressemble à un tapis de bon marché qu'on trouve dans
ça ressemble à un tapis bon marché aux États-Unis, la viande de bœuf séchée.
Alors pas vraiment, parce que j'en ai mangé aussi aux États-Unis et non, la consistance n'est pas la même. Là-bas, faut vraiment la mastiquer pendant une demi-heure avant de réussir.
Tu fais rêver là.
Mais alors effectivement, c'est
on dirait Freddy avec son fenouil.
Ah, c'était donc ironique.
Donc c'est vraiment pas du goût de tout le monde, mais moi c'est un truc que j'ai adoré. Ouais. Donc voilà, c'est le truc insolite.
C'est fumé, tu dis ?
C'est séché. C'est ce que prenez.
Au bout de quelques jours, ça devient fumé. Au début, c'est séché. Après, il suffit juste de mouiller un peu et c'est bon, hein, ça devient comestible.
C'est ce que prenaient en fait les éleveurs quand ils partaient.
En même temps, oui, parce que c'est riche en protéines de toute façon.
Oui, c'est la viande. Ouais. Merci d'avoir suivi.
Oui, c'est ce que je dis.
Et on disait tout à l'heure. Je crois que c'était hors émission, je me permets de rappeler, qu'on mangeait aussi beaucoup au Chili, c'est ça ?
Non, c'était il y a un quart d'heure. On l'a dit. Moi, tu as peut-être arrêté le vin chilien, là, quand même, hein, il tape. Hein.
On mange beaucoup au Chili, je confirme. En fait, les Chiliens ont des...
Non, je voulais dire, on mange des choses grasses, sucrées, pas forcément équilibrées.
Alors, ils aiment beaucoup le sucre, ils aiment beaucoup, beaucoup de choses à base d'avocat aussi. Ça fait partie... Oui. Ils font ce qu'ils appellent la palta. La palta, donc, c'est de l'avocat écrasé qui sert généralement, puisque c'est pas assez gras, avec un petit filet d'huile.
Bah oui.
Et plus généralement, ils tartinent ça.
Un peu de chantilly, on va pouvoir carrément.
Ils tartinent ça sur.
C'est ça plus onctueux.
Avec une saucisse, un coup de moutarde.
Ils tartinent ça avec une saucisse.
Maillot et tout.
Ça fait rien.
Et non, ils aiment manger.
Alors que l'ananas, c'est plutôt diététique au départ.
Phénoménaux. Enfin, non, c'est.
Avocat.
Ce sont des grands amateurs de viande.
Lulu.
Ouais. Ça va être drôle.
Non, pas du tout. Non, mais en fait, je voulais juste revenir sur un truc avant qu'on reparte sur la bouffe.
Pinochet. Pardon.
Vas-y, Ludo. Tu parlais de la Patagonie tout à l'heure.
Oui.
Et je pensais que c'était en Argentine, moi, déjà.
Il y a deux parties.
Voilà, c'était ce qui m'intéressait, parce que pour moi, la Patagonie, c'est l'Argentine.
Il y a la Patagonie argentine avec Florent Pagny, effectivement, et puis il y a une partie de la Patagonie qui est chilienne.
D'accord. Et donc, c'est assez sauvage, tout ce qu'on a. Tout à l'heure, tu parlais donc du tourisme, où ils voulaient effectivement refaire venir pas mal de gens. Il n'y a pas un risque de bétonnage à outrance ou,
mais en fait, là, pour l'instant, développer le tourisme dans ces zones-là, ça reste un tourisme très cher.
Très cher, et donc.
Pour y aller, donc ça limite quand même.
Oui, d'accord.
Il y a d'autres zones, effectivement, où j'ai plus de craintes. Toute la partie du nord du Chili, la partie désertique, où effectivement, on n'est pas loin du Pérou, donc ça peut s'inscrire dans un périple en Amérique du Sud, où là, on risque de ressentir dans peu de temps les effets néfastes du tourisme à outrance.
Freddy ?
Ouais, peut-être une dernière question sur le sujet, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'entreprises françaises installées au Chili. Je pense à Peugeot, Renault, mais aussi peut-être le métro, je crois, chilien.
Le métro chilien, effectivement.
Et qui est français. Est-ce qu'il y a une. Enfin, c'est quoi la part de.
Il y a des liens très forts, si c'est ça la question. Oui, il y a des liens très forts entre le Chili et la France.
Et la deuxième partie de la question, est-ce qu'il y a beaucoup de Français qui sont installés au Chili pour travailler ?
Alors, beaucoup de Français installés au Chili pour travailler. Je n'ai pas les chiffres exacts qu'on doit pouvoir trouver sur
le site. Mais au cours de tes voyages, est-ce que tu en as rencontré beaucoup ?
Pas énormément. Lors de mon dernier voyage, je suis effectivement tombé sur des Français, mais qui, eux, étaient dans le cadre d'un périple en Amérique du Sud, mais un voyage organisé. J'en ai rencontré aussi qui venaient expressément pour skier au Chili, parce que ça fait classe de dire qu'on est allé skier à Santiago. J'en ai rencontré d'autres qui étaient installés là-bas, mais voilà, c'était effectivement pour des raisons professionnelles et c'était une expérience isolée, quoi. Il y avait pas.
Okay. Est-ce que tu serais prêt à devenir le Florent Pagny du Chili, toi ?
Lui, il s'en fout, il demande même pas la vie pour me poser des questions.
Non, mais ça.
Tant que vous ne vous en prenez pas ma liberté de penser, moi tout va bien.
C'est beau. Très belle réponse. Didouille, oui, parce
alors,
que toi t'attendais.
Raison pratique.
Qu'est-ce qu'on mange ?
Non, c'est pas ça.
Alors, est-ce que tu as un quatrième plat à nous parler ? Mais c'est toi qui est vraiment très commun. Parce qu'on a parlé d'exotique, maintenant du commun.
Non. Est-ce qu'il y a des besoins ? Je sais que sur certaines destinations, on va nous demander de nous vacciner ou machin. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre avant de partir là-bas ?
Non, rien. Voilà, c'est simple, rapide, efficace. Non, il n'y a rien. Et il faut savoir aussi, ça je l'ai appris sur le tard, mais que le Chili n'est pas une zone de paludisme,
oui, voilà.
En sens où on peut rentrer et donner son sang en France sans problème.
D'accord.
Voilà, je vous incite d'ailleurs à le faire si vous ne le faites pas régulièrement.
Bah, le problème, c'est que mon sang n'est pas pur, quoi.
Juste, peut-être pour terminer, juste une petite question. Si je ne dis pas de bêtises, je vois qu'il y a Lulu qui s'active d'un côté. L'île de Pâques est chilienne ?
Oui.
C'est quelque chose qui est quand même une île qui est empreinte de mystère, etc. Enfin, qui est le lieu un petit peu de spéculation. Est-ce que c'est quelque chose qui cultive au Chili ? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils subissent ? Ou ils s'en foutent complètement ?
C'est loin, c'est pour y aller, c'est loin, c'est cher. Donc les Chiliens, honnêtement, les Chiliens du pays ne vont pas sur, ou très rarement, peut-être une fois dans leur vie.
Si tu y es allé, toi ?
Non.
C'est pas 3000 bornes, 3000 bornes du Chili.
Pratiquement 4000. C'est très cher. Non, c'est et sur place.
T'en profites pas une fois que t'es sur place, quoi. En fait, c'est tu y vas là-bas pour y aller. Voilà.
A priori, tu fais le tour en scooter en 2 heures, quoi.
Grosso modo, c'est ça. Et c'est non. Là, par contre, on parlait du tourisme à outrance. Et c'est vrai que l'île de Pâques, pour ça, est réputée pour pâtir vraiment de ce tourisme. C'est-à-dire que les personnes qui vivaient sur place sont désormais un peu comment dire, mise à la porte de chez elles. On construit tout. Il y a des gros problèmes avec les ordures ménagères, notamment. Donc voilà, c'est. Je pense que l'île de Pâques, effectivement, symbolise un peu ce que le tourisme peut faire de plus mauvais.
D'accord. Okay. Ludo, oui.
Oui, c'est une dernière question peut-être. Voilà. Et Hugo Frey. Je veux dire, Hugo Frey, le Chili, c'est quoi? Voilà. Bah oui, nous irons tous à Valparaiso, etc. Est-ce que Hugo Frey est considéré comme quand même une figure forte du lien?
Est-ce qu'on chante Hugo Frey au karaoké?
Santiago du Chili, voilà. C'est ça, non?
Santiago, c'est un peu ça. On ira tous à Valparaiso.
Est-ce qu'Hugo Frey est connu là-bas? Je pense que la statue qui a été érigée en son honneur en plein cœur de... En plein cœur de Santiago, peut en témoigner. Non, pas
à
du
côté
tout.
De Maggie.
Personne ne m'a jamais dit. Oh, mais tu es français. J'ai très mal les accents, hein, je vous précise.
C'était génial.
Ton accent un peu chilien, ce truc.
Ça aurait dû faire toute la chronique.
Chilien qui a vécu en Angleterre, en fait.
C'est un afro-anglais qui était parti au Chili.
C'était tabarnak.
Voilà, ok.
On m'a jamais parlé du gaufre au Chili. Autant.
C'est un peu décevant.
La première chanson que j'ai entendue là-bas en arrivant, la toute première fois que je suis allé au Chili, c'était du Cabrel. C'était Je l'aime à mourir.
Donc Rihanna,
Shakira.
Shakira,
cette chanson-là, pour la petite histoire, la chanson de Cabrel, Je l'aime à mourir, est reprise quasiment depuis le jour de sa sortie en France, est reprise en espagnol. Et c'est un succès mais phénoménal en Amérique du Sud. Hein. Elle est bien avant Shakira.
Son conseil chilien.
Il y a eu des dizaines et des dizaines de reprises de cette chanson.
C'est sûr que la dame de Haute-Savoie en chilien.
Les grandes figures de la musique au Chili, c'est, tu connais un petit peu ou...
Alors, il y a.
Contemporain, enfin, ou des choses qui sortent.
Il y a forcément Violeta Parra qui.
Je connais pas. Alors là. C'est bon.
Je connais pas. Là,
mais... Et son fils aussi.
Violetto Parra.
Angel Parra. Ça reste des musiques très traditionnelles.
C'est très traditionnel ou c'est.
Oui, ils sont. Après, enfin, la musique chilienne, ça reste une musique très traditionnelle. Mais à côté de ça, ils sont comme nous, ils écoutent, ils ont les radios internationales et les chanteurs internationaux qui font pas toujours que du bon, mais en tout cas ils ont tout ça. Mais sinon
c'est une production nationale, voilà. Ça que je veux dire. Est-ce qu'il y a
aujourd'hui des artistes chiliens, des chanteurs chiliens ou des groupes ou des chanteuses qui s'exportent à l'international, j'en ai pas en tête, non.
Ok, mais en tout cas, moi je.
Bah merci beaucoup, j'ai appris énormément de choses.
Ça envie.
Merci à toi.
Moi j'ai envie d'y aller surtout. Ouais, bah, carrément.
Merci à vous de m'avoir invité.
Donc si on décide d'y aller un jour, tu as donc des contacts, c'est ça, chez qui on peut crêcher gratos, comme il faut.
Des empanadas.
Manger super gras et tout.
Je vais faire ma petite parenthèse, mais si jamais vous y allez effectivement un jour. Il y a un peu partout des systèmes de chambres d'hôtes qui sont vraiment très très développés. Et des fois, c'est juste une pancarte sur un coin de mur et c'est ça coûte rien.
Et alors, c'est nickel.
Et c'est pas toujours nickel.
Non, faut, que je dis nickel, c'est...
mais
ça dépanne bien.
Ça dépanne vraiment bien.
Et ça permet à la limite de faire tout un circuit en passant par la chambre d'hôtes.
Et puis de rencontrer des Chiliens, des Chiliens du cru. Quoi.
Oui.
Ce qui sont vraiment
conseille
fois,
aussi
sont
certainement sur les choses à voir.
Super accueillants. Voilà.
D'accord.
Merci.
Ok, merci en tout cas pour cette rubrique et puis on va passer à la suite. Et nous revoici avec la rubrique à briques, un peu le fourre-tout de l'émission où chacun aborde les divers sujets qui lui tiennent à cœur. Et Didouille va nous présenter un sujet qu'elle a retenu et qui est plutôt insolite. Comme
alors,
elle dit
en général, en radio ou dans le journalisme, il faut trouver un lien, c'est ça, une transition?
Oui, non, on ne se fait pas chez nous.
Non, parce que fourre-tout, c'était pas mal.
Hein, ah oui, par rapport à ton thème, effectivement.
Par rapport à mon thème, c'était pas mal. Alors, en parlant de fourre-tout... J'ai trouvé, messieurs, mesdames, un petit truc assez insolite. Dans le micro, je peux pas faire mieux. Alors.
Ludo m'a dit que tu pouvais faire mieux. Bon.
Ah, c'est malin. Pardon. C'est malin. Surtout avec ce qui va suivre.
Donc, je me suis intéressée un petit peu en avant-première par rapport au salon de l'érotisme. Ça peut être un lien aussi. Sur un restaurant.
Attends, tu peux m'expliquer quand même le lien entre le fourre-tout et le salon de l'érotisme.
Eh ben, attention. Mais retenez tout.
Il va falloir que tu apprennes des choses.
C'est quand même un champ évident, quand même.
Cherchez le lien. Fourre-tout, salon de l'érotisme.
Bah, j'en ai quelques-uns, mais est-ce que. Oui, bon, vas-y.
Je prends en trois briques.
Vas-y,
Mironton, Barjabul,
barbecue.
Allons-y, reprenons le cours de notre émission.
Il y a un restaurant à Beijing, en Chine, donc, qui vient de s'ouvrir et qui est assez spécial puisqu'il propose sur sa carte que des plats à base de pénis d'animaux. Ah, ou comment trouver un intérêt autre au sexe.
D'un coup, oui.
Alors, sur la carte, on peut compter un peu plus de 30 sexes d'animaux différents, je vais vous dire.
Ah, c'est vrai qu'entre l'éléphant et le chihuahua, t'as pas la même dose, quoi.
Alors,
et la boule chienne.
On est d'accord que ça va changer du canard laqué et des beignets de crevettes. Et la carte
oui,
des
oui,
plats
faut sortir des sentiers battus, t'as raison.
Est assez explicite. D'ailleurs, c'est bête parce que c'est pas très radiophonique, mais je vous montre.
La photo est explicite.
La photo, hein, de
c'est
la
une
carte.
Une asperge, non ?
Voilà.
On mettra le lien sur
joli phallus.
Sur le blog parce que vraiment, ça mérite d'être vu.
Et donc, vous pouvez dans ce restaurant déguster du pénis de taureau découpé en étoiles. Ça donne envie, je vous montre.
Oh, c'est mignon, oui.
Oh non,
c'est oh, miam, miam, miam.
Et la sauce, c'est quoi?
Je ne sais pas.
On parlait de carambole.
Mais alors, celui qui m'a un petit peu plus impressionné, c'est quand même le pénis de yak.
Voilà. Oh, wow.
Ce wow. n'est pas un serpent. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, 30 pénis, ça veut dire quoi comme sorte de pénis? Vous avez du pénis de mouton en brochette.
Ma foi, très très bien accommodé.
Alors, faut reconnaître à ces Chinois, oui, et toujours accompagné d'une sculpture dans les légumes assez.
Le plus bel effet.
Voilà, exactement. Mais celui qui est. C'est le. Alors, il y a à la fois taureau et pénis de chien. Je vous laisse.
À la fois taureau-chien.
Trouver le pénis du chien.
Dans le cornet, là.
Oui, la petite cerise.
Bon, pour les gens qui n'ont pas la photo, cerise, ça ne parle pas, mais c'est vrai.
Ce qui m'inquiète, voilà. C'est qu'on dirait qu'il y a une enfant de 12 ans derrière.
Mais oui,
mais il y a une enfant de 12 ans derrière. C'est la mise en scène qui est un petit peu glauque.
Oui,
malheureusement.
Ceci dit, c'est fort, fort bien joliment présenté.
C'est servi avec une enfant de 12 ans.
Mal du trou sort de ce corps.
Je crois que là, vous allez être choqués. Parce que moi, personnellement, ça va un peu... Alors, je sais pas, il doit être fumé ou séché.
Le pénis d'âne.
Le pénis d'âne. Attention, wow. Gros... sensible, abstenez-vous.
Ah, ben, mais c'est pas du tout appétissant. Comment veux-tu être contente de recevoir ton assiette, là? T'as
pardon
pas envie.
Mais en même temps...
De recevoir, quoi, tu sais pourquoi tu y vas manger. Hein.
En même temps, quand tu vas dans ce restaurant, c'est pour bouffer du pénis, puisqu'à la carte,
t'imagines
ne
que ça va être un peu
ça
mis en valeur. Enfin, là, oui, c'est quand même...
Mais écoute, tu
oui,
as...
par rapport au truc étoilé regarde tout à l'heure, ou les brochettes.
C'est brut, là.
Est-ce que sur les 30, on peut savoir un peu quels animaux sont présents, en termes de pénis?
Ah bah alors, il y a
tu m'as l'air intéressé.
Ouais, ça m'intéresse.
Chien,
parce que 30, ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup, tout à fait. Mais je ne maîtrise pas encore le chinois. Les idéogrammes, je ne les lis pas. Je suis désolée. Hein, je n'ai donc pas pu lire la carte.
Tu m'excuseras donc pas le vermicelle.
Merde.
Par contre, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez accéder sur l'adresse internet qu'on vous mettra. Et là, vous avez carrément une vidéo de ces petites choses.
La vidéo de
comment préparer un pénis de yak, notamment.
D'accord.
Excuse-moi, car, je ne sais pas ce que fait Anthony, mais d'ici, j'ai l'impression qu'il...
Il est en train de faire un truc sous la table. C'est un peu bizarre.
Ah, c'est le restaurant qui me fait envie.
Non, mais c'est pour ça que tout à l'heure, je posais des questions sur le côté insolite. Voilà.
Est-ce qu'il y a du roco?
Est-ce que, par contre, il n'y a pas de risque d'infection?
D'infection.
En même temps,
est-ce qu'on peut choper une ch'touille
voilà.
C'est ça ta question.
Tu veux savoir si finalement il y a une traçabilité des pénis.
Je veux surtout savoir si c'est prévu aussi de la pénicilline.
Oh non. Non, Ludo.
Les grosses têtes de pélé.
Ah non, mais là, je n'ai pas de réponse.
On est tombé bien bas.
Désolé.
Nous sommes tombés bien bas. Malheur, catastrophe, je le sais. Ok, je sors.
Voilà, c'était. Donc, si vous allez en Chine, je vous invite à aller découvrir.
Bah, franchement, si j'y vais, je.
Un petit tour à Pékin.
Souvent, on a envie, après les présentations des chroniqueurs,
d'aller en Chine.
Là, bizarrement, non.
Ah oui, d'accord. Ah
non, moi, j'ai juste une question. T'as un problème avec la nourriture?
Moi, j'ai non, apparemment, j'ai un problème avec le sexe. Parce que dans l'épisode précédent, je faisais déjà allusion au
c'est
problème.
C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs,
et ce soit dit en passant, alors, je dois être...
Il y a un souci, Ludo, ou...
Non, non, c'est... Alors, Lulu, il y est fou rien. Hein. Mais il y a eu quand même un sujet sur France Inter, sur ce que je vous avais dit à propos du rétrécissement du pénis. Donc, c'est que quelque part, le sujet intéresse.
C'est un sujet qui est brûlant.
Alors que pendant ce temps-là,
exactement,
les moules, elles gonflent, elles gonflent, elles gonflent.
Vraiment.
Faut-il y chercher un effet de cause à effet.
Oui, là, c'est, les choses sont mal branlées quand même. Hein. C'est vraiment pas de bol. Bref. Sans transition, parce que là, ça va être difficile. Oui. Je laisse la parole à Christophe.
Allez. Attends, bon lui, la
Christophe, ah, fais une marée. Allez, vas-y. Oh.
Super la transition. Elle
vas-y.
Va être,
ah, il n'y en avait pas.
Elle va être brutale. Ah. Bien qu'on pourrait trouver un lien. Puisqu'il s'agit de drogue, un petit.
C'est un sujet qui revient souvent chez Christophe.
Ouais, ah, c'est vrai, mais.
Un petit bouquin, chacun ses problèmes. Donc, c'est un journaliste qui écrit pour les Inrock et qui est spécialiste des drogues, qui s'appelle Arnaud Aubron, qui a édité un dictionnaire qui s'appelle Drugstore, dictionnaire rock historique et politique des drogues. Et donc, c'est vraiment une encyclopédie parce qu'on trouve vraiment de tout dans ce bouquin. Et il fait pas une thématique drogue par drogue, il fait simplement des ouvertures par un certain nombre de noms. Donc on commence par Abstinence, Zoho, Descente, François
on
Hollande,
reste dans le même thème, hein.
François Hollande. Musique, Sarkozy est dedans aussi. Et donc à chaque thème, il y a une petite histoire. Donc on peut retrouver par exemple un gros trafic d'héroïne mené par les États-Unis dans les années 60 au Vietnam. Ou bien avec les Colombiens et la lutte contre le gouvernement sandiniste au Nicaragua. On trouve également un certain nombre de choses concernant Coca-Cola. Voilà. C'est un petit livre vraiment intéressant, mais surtout, c'est qu'il pose la problématique de savoir si la prohibition, ou alors si on peut considérer encore les drogués comme des délinquants. Et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, évidemment. Parce qu'il s'intéresse aux drogues sans dogmatisme et il s'intéresse aux pratiques plutôt qu'aux interdits.
c'est pas du tout orienté ta façon de présenter. Mais
t'as non, pas mais... pris parti du tout là.
Non, mais quel rapport avec la musique, moi, c'est ça.
Moi, je ne prends pas parti. En fait, c'est lui
les
qui musiciens. Prend parti. Et effectivement, j'adhère à son idéologie
politique.
Parce que, voilà, à un moment, il dit, par exemple, je vous lis la phrase telle qu'elle, il dit « La différence fondamentale entre un alcoolique, un accro aux antidépresseurs et un héroïnomane ne tient pas à la nature chimique des produits qu'il consomme, mais au fait que la société a décidé que deux de ces psychotropes étaient légaux, tandis que le troisième ne l'était pas. » Donc, en fait, il pose le problème social, il pose vraiment un problème social, Mais aussi géopolitique et de tout ce qui est lié au fait que les marchés de la drogue prospèrent dans le monde, quoi. Voilà.
Moi je dis faut tous les enfermer, les drogués.
Voilà, et puis il y a une petite référence aussi à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire Breaking Bad, la réalisation en fait des méthamphétamines. Lui, il appelle ça des designer drugs, c'est-à-dire des gens qui fabriquent sur place de nouveaux produits parce que les substances classiques comme l'héroïne, la cocaïne, la marijuana ont tellement été combattues par tous les gouvernements du monde que finalement ces drogues-là elles se sont retrouvées en pénurie. Et donc un nouveau marché est arrivé, les méthamphétamines ou les amphétamines parce qu'il y en a une sacrée variété, et fait par des apprentis chimistes. Et la conséquence elle est grave parce que autant Heisenberg faisait un truc de haute qualité. C'est une série, mais en partie vraie. Enfin, il y a des choses qui sont assez
De haute qualité. Il cramait quand même la tronche des gens. Quand
oui,
même.
C'est vrai. Mais il y a des amphétamines, notamment en Russie.
Qu'est-ce que c'est, terre à terre ?
Il y a des amphétamines en Russie qu'on appelle le crocodile.
Encore pire.
Ou en Argentine qu'on appelle le paco, qui sont d'une qualité médiocre, mais terrible, quoi, et qui font bien plus de ravages que l'héroïne, la cocaïne ou la marijuana. C'est-à-dire que en voulant combattre les drogues, on va dire, traditionnelles, on a créé finalement des drogues de synthèse qui sont pires, qui font des dégâts encore pires. Bah voilà, Breaking Bad en est un exemple.
Et encore plus addictogène, certainement, en plus.
Et encore
plus addictogène.
En plus.
Certainement.
Bon voilà, je trouvais que c'était que ce livre est vraiment intéressant. Il parle quand même des choses assez positives, comme en Espagne, le mouvement qui s'appelle le Cannabis Social Club.
Positif, attends.
Oui. Je le vois arriver, le pépère.
attends. Non, parce que en Espagne, la dépénalisation a été arrêtée. Ceci dit, ils ont trouvé une autre, un substitut qui autorise en fait des consommateurs à se regrouper dans des associations déclarées en préfecture pour cultiver et fumer eux-mêmes leur cannabis, donc dans un cadre très restreint. C'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas y rentrer, il faut vraiment être coopté. Et donc ça échappe donc, au circuit de trafic habituel. Voilà. En France, on est encore à une réglementation qui date des années 70 où le consommateur de juin, bah, il va direct en prison, quoi. Dommage pour sa tronche.
Oui, Freddy.
Alors, je trouve que ce podcast prend une tournure très enquête exclusive. Là. Sexe, drogue, nourriture.
Et rock'n'roll.
Nourriture.
Bernard de la Villardière va pas tarder à arriver avec la main dans la poche et puis la mèche au vent.
Ceci dit, il y a des anecdotes qui sont assez intéressantes. Par exemple, nous qui sommes musiciens, j'ai appris comment les retours sur scène sont apparus. En 1965, un des gourous du LSD, Timothy Leary, sponsoriser un espèce de groupe que Ludo connaît sans doute, moi je ne connaissais pas, qui s'appelle Grateful Dead.
Ah oui. Ah oui.
Et donc, eux, avec cette expérience du LSD sur scène, on se dit, putain, on ne s'entend pas, quoi, c'est quoi ce bordel? Et donc, ils ont décidé de mettre des retours sur scène. Et aujourd'hui, forcément,
un groupe. Parce que les gens qui n'étaient pas drogués ne se rendaient pas compte, eux, qu'ils ne s'entendaient pas.
Exactement.
D'accord.
C'est assez hallucinant, quand même, comme histoire.
Oui.
Quoi.
Mmh. Et, merci
voilà,
à eux.
Entre autres. Mais. Et donc, pour finir, je pense que ce bouquin, à mon avis, pourra changer le regard de beaucoup de gens sur les drogues. Et lui, il parle même d'un drugstore, c'est-à-dire d'un marché à ciel ouvert que nous vivons tous les jours, puisque là, j'ai fait référence à des drogues assez classiques, mais on peut y trouver du café, Coca-Cola, du venin de serpent, etc.
Tu peux raconter celle-là, c'est celle qui m'intrigue, en fait, là. Je vois que certains Indiens se shootent à la morsure de serpents.
Oui.
Alors raconte un peu.
Alors il y a des serpents, mais alors c'est très délicat parce qu'on ne maîtrise pas le dosage, forcément. On ne va pas dire au serpent,
tiens, tu peux y rester.
2 ml simplement, s'il te plaît.
Tu croques 2 secondes et après tu
voilà. Et donc, il y a des gens qui sont devenus addicts à la morsure de serpent parce qu'en fait.
C'est énorme ça.
Parce que le venin qui circule dans le sang après morsure les met dans un état euphorisant, type drogue. Sauf qu'il y a eu beaucoup d'accidents parce que. La quantité d'injection n'est pas maîtrisée. C'est-à-dire que si tu tombes sur un serpent
un peu vénère,
valaise, quoi, ou qui n'a pas lâché son venin depuis longtemps, il t'envoie...
Lui aussi, les douilles, on rencontre des fois son...
l'allusion...
Il maîtrise rien, c'est ça.
Le serpent qui n'a pas lâché son venin depuis très longtemps.
Et donc là, contrairement aux humains, c'est l'overdose.
D'accord. Oui, bah, nous, c'est la loverdose, nous. Hein. Ouais.
Donc voilà, je trouve que ce bouquin devrait être lu par tout le monde. Parce que
le mec, en plus, après, il va se vanter, genre, c'était pour toi.
T'as failli me noyer, sale con.
Tu peux redonner les références du bouquin?
Donc c'est Arnaud Aubron aux éditions Don Quichotte, Drugstore, dictionnaire, rock historique et politique des drogues.
Ça coûte combien?
Je ne sais pas, 19,90 €. Ouais. Et juste pour terminer, parce que je trouvais que cette phrase, elle était jolie, mais elle va faire bondir tout le monde autour de la table, c'est pour ça que je l'ai dit, j'adore. Donc c'est le gourou californien du LSD qui a dit ça, Timothy Leary, qui dit « Les drogues provoquent des comportements irrationnels chez ceux qui n'en consomment jamais ».
Ah,
faux. Ouais. Je bondis.
Je sens, ouais. Fais-toi sur la chaise quand même, s'il te plaît. Mais écoute, c'est intéressant aussi ça. Ça me donne bien. Tu l'as fini ton livre ou pas?
Oui, je l'ai presque fini.
Bon, mais bien
après, tu l'as pas fini.
Non, parce qu'il me reste la fin, c'est toutes les formules chimiques.
Il me reste la fin, les 200 dernières pages.
Non, parce que.
Je l'ai pas fini parce qu'il me reste la fin.
Non, je voulais dire que.
Te laisse-moi emmerder, Christophe.
C'est parce que j'ai oublié de parler de la constitution thématique du livre. Et à la fin, il y a une partie
qui ne donne pas les recettes pour faire de la drogue. Quand
non,
même.
Mais qui donne les formules chimiques de pas mal.
T'es toujours basé recettes, bouffe, machin.
Qui donne les formules chimiques de pas mal d'amphétamines. Et là, ça devient compliqué. C'est bon, j'ai pas encore lu cette partie-là.
Ok, bon. Vas-y, Ludo. Tu es en train de lire en direct.
Je trouve qu'il y a des choses passionnantes, mais.
J'ai essayé de faire vite parce qu'on est à la bourre, mais.
Il y a plein de trucs. La lobotomie, par exemple, pratiquée.
Ah, carrément, comme, tu vas te dire.
La lobotomie pratiquée comme technique de sevrage. Je vois, les auteurs rapportent le cas d'une jeune fille de bonne famille de 22 ans, consommatrice occasionnelle de pâtes de coca, de marijuana et d'alcool. Ses parents inquiets furent dirigés vers le docteur Lossa qui leur expliqua que leur fille souffrait d'un comportement compulsif obligatoire produit par l'action de la cocaïne sur son cerveau. Une seule solution, la cingulotomie, le nom officiel de l'opération proposée par Lossa. En fait, il lui perce le crâne avec une sonde pour lui sectionner les fibres nerveuses, de la matière blanche du cerveau frontal. Résultat, autant vous dire que...
Bah, elle a plus pris de drogue.
L'histoire ne dit pas comment s'en sortit la jeune patiente.
En fait, elle est restée droguée à vie. En fait.
Mais il y a plein de
choses. Non, mais alors on parlait de l'Amérique latine. Ils sont adeptes de la cola, cette feuille verte là qui mâchouille.
La coca, pardon. La cola, c'est en
Italie. Non, en Allemagne, on dit cola.
Elle est addict à la société de consommation, dis donc.
Non, mais ça mâchouille à fond les ballons et
ça mâchouille. Effectivement, dans certaines régions. Notamment dans le nord, quand il y a des... Je suis allé au lac... j'ai oublié son nom, le lac Chumera.
Connemara.
T'as vraiment envie que je chante aujourd'hui. Et avant de monter, vu que l'ascension est assez rapide, ils nous donnent des feuilles de coca à mâcher et ils nous en préparent en infusion aussi.
Donc
j'ai goûté. Oui.
Alors ?
C'est pas exceptionnel. Hein. C'est assez amer. Non, il n'y a pas de... Enfin, voilà,
t'as senti des choses ?
J'ai rien senti de particulier. D'accord.
T'aurais préféré le serpent, toi, non ?
Non, le restaurant... d'en parler...
Lise de chien.
Mais en tout cas, merci Christophe pour cet ouvrage dont on mettra les références sur le billet du blog. Ah, pour ceux qui ont envie d'en savoir un peu plus. Non, c'est moi d'abord.
Bon, d'accord. Mais après moi.
J'ai envie d'en savoir un peu plus sur ces pratiques et cette culture. Nous allons passer à une rubrique qui n'a pas de jingle puisqu'elle vient d'être créée il y a quelques instants.
Quelques minutes,
enfin voilà. Donc c'est la rubrique de Starlet à tester pour vous. Donc pas de jingle, nous allons enchaîner directement.
On peut chanter un jingle,
qu'est-ce qu'on fait? Anthony, vas-y, chante-nous un truc.
C'est testé pour vous.
Oh, c'est beau ça. Alors, Starlet, c'était pas tout à fait ça les bruits que j'avais entendus tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave.
Ouais.
Allez.
Alors j'ai testé pour vous. J'ai testé pour vous un truc de fou, en fait.
Carrément. Allez, va direct.
Hein. Carrément quoi. Bon, les gens qui sont autour de cette table savent que le sport et moi, c'est pas forcément quelque chose qui se marie très bien.
Ah bon ?
Voilà. Mais j'ai testé. Je me suis dit, quitte à faire du sport, je le fais à fond. J'ai fait le T-Bootcamp No Limits.
Déjà rien que le nom fait peur. Hein.
Et la session à laquelle j'ai participé s'appelle Kill the Fat.
Moi, j'ai vu les photos. Hein.
Autant dire que c'était quand même assez ciblé. Donc, cette session-là se passe à l'extérieur, à l'hippodrome de Sauteville-lès-Rouen. Donc, c'est de la torture, en fait, carrément. Enfin, je pense que les gens qui aiment le sport...
C'est l'ancien champ de course.
Bah oui, en face du stade.
Oui. En face du stade Diocho.
À côté du japonais. Ça me parle déjà plus, là.
C'est pas celui.
Si, c'est limite
celui. Si, c'est... Ouais.
Tu connais pas ta géographie. Hé, le truc des permutes, c'est par là.
C'est bientôt on allait courir.
Et donc, j'ai testé ça. Et donc, c'était une séance qui a duré environ 3 quarts d'heure.
C'est quoi le principe ?
Alors, c'est tu te dépenses à fond. C'est pas de la gym douce, machin, yoga, tout ça. C'est tu y vas, tu sacs dans le muscle et dans le fat, quoi.
Est-ce qu'on peut prendre de la cocaïne pour y aller ?
Bah, je pense que c'est peut-être même recommandé.
Il n'y a pas un risque, si tu faisais pas de sport avant ?
Alors, c'est physique, musculairement, mais pas cardiologiquement. En fait, c'est pas le cœur qui chope, c'est tout dans le. Moi, la cibler sur les bras, j'ai pas pu. Enfin, j'ai eu du mal à conduire pendant 4 jours.
Elle pouvait pas porter une tasse, quoi.
Par contre, dis-moi, tu l'as pas recommencé cette séance parce que ça t'a dégoûté à vie.
Alors, justement.
C'est ça qui est particulier comme.
Pour vous expliquer la petite anecdote, je me suis dit, ce matin, il y a un Kill the Fat. Je me suis dit, là, pour en parler fraîchement, bah, je vais y aller. Du coup, je me suis réinscrite sur le groupe Facebook et j'ai revu les photos.
Et j'y suis pas allée.
Voilà. Il y a donc voilà. Un groupe Facebook, c'est ça?
Oui, ça s'appelle T No Limit Bootcamp. Donc c'est pour le groupe de Rouen, mais je suppose qu'il y a plein de T voilà. Et mais c'est vraiment
la
très violente.
Ouais. Ça...
Mais c'est même pas un peu, c'est quand même, je suis d'accord avec Anthony, c'est pas un peu dangereux quand
mais
même.
Mais non, mais que... honnêtement, encadré, je me suis dit, alors c'est encadré donc par un coach qui s'appelle Thierry en l'occurrence.
Lui, comme un balance.
Non, mais je suis sûre que c'est très bien. Seulement pour quelqu'un qui fait jamais de sport, c'est quand même un peu violent. Je me suis dit. Alors, c'était pas pour me trouver un prétexte, je me suis dit, ça va me faire mal aux articulations quand même. Voilà.
Ouais, et tu peux te démettre une épaule ou te froisser un muscle.
Ah non, mais carrément, vraiment, c'était ciblé sur les épaules. J'ai pas pu. Pour repartir, je suis montée dans ma voiture, je me suis tournée, j'ai dit, oh, la ceinture, elle est loin quand même. J'ai eu du mal pendant 4 jours. J'ai eu très très mal. Donc, c'est à base de. Il y a eu 4 exercices.
Pas, toujours.
Voilà. Bon, il y en a qui étaient relativement classiques. Le plus difficile. Qui peut ne pas paraître difficile. En fait, il y avait une corde de, je sais pas, 3, 4, 5, 4, 5, 6 centimètres de diamètre, 7, 8.
Ça n'a jamais fait 5 centimètres.
Non, ça. Si. Arrête.
Donc, je sais pas, peut-être de 6, 7, 8 de long.
On s'en fout. Arrêtez, c'est bon, bref.
C'est un numéro de comparaison.
En fait, tu prends la corde par les deux bouts et donc elle fait un, je sais pas comment expliquer, sans faire de gestes. En fait, elle fait le tour d'un, elle avance, elle fait le tour d'un poteau puis elle revient. C'est
fait une boucle, quoi.
Une boucle, quoi.
En fait, elle fait une boucle autour d'un poteau. Donc on prend cette corde très très lourde.
Il faut arriver à péter le poteau.
Ah non, mais c'est un truc de dingue. Tu fais des mouvements de sinusoïdaux en fait.
Il faut scier l'arbre en fait.
Non, mais il faut la lever et arriver à faire aller l'onde jusqu'au poteau. Les deux premières fois, j'ai fait une super belle onde. Seulement, il faut le faire 15 fois. Et à la fin, je faisais un truc et puis. Voilà. Et franchement, ça fait morfler. On se rend pas compte. C'est vrai, vous comprenez pas. Alors, j'ai du mal à expliquer.
Mais non,
sans
si,
les...
on comprend, si, mais si, ça me comprend, paraît court, 6 cm pour faire une.
Non, c'est le diamètre. Ah, la longueur, c'est 6, 7, 8 mètres.
Ah oui, effectivement.
Et au final, c'est pour perdre du poids. Donc,
Kill the fat, c'est plus que pour perdre du poids, pour te resculpter, en fait. Ah bah là, pour remplacer le gras. Par du muscle.
Et alors, vivement que séance, tu testes. Alors, tu as considéré que le test était réussi ou pas?
Bah, une séance, tu peux pas voir, mais a priori, il y a des gens
comme
qui.
Comme elle a pas envie
font...
d'y retourner.
Bah, non, c'était trop violent pour moi. Puis j'ai pas de gras trop, alors j'ai pas trop pu voir.
Je reviens sur ce que tu disais. Est-ce qu'on t'a demandé un Anthony, certificat ouais. médical, quelque chose?
Non, pas du tout.
C'est encadré par quelqu'un qui est diplômé
alors,
d'État.
Alors. Oui, il est diplômé. Oui, par contre, je ne sais pas de quel état.
Proche de l'Ohio.
Non, il est coach. Par contre, il te dit clairement, si tu sens que tu n'en peux plus, t'arrêtes.
Ouais. Ok, d'accord.
En plus, le truc, c'est que quand tu le fais, tu te dis, si je le fais, je le fais à fond.
Ouais. Donc, c'est peut-être un peu ça, c'est qu'il y aurait peut-être besoin de quelqu'un qui tempère un peu les débutants.
Moi, personnellement.
C'est moi, je t'ai vu revenir, franchement. Je trouve que pour quelqu'un qui va pour la première fois faire un truc comme ça, on lance les gens à fond dans le truc, c'est un peu débile. Comme le mec qui se dit, tiens, j'ai jamais couru de ma vie, bah dimanche, je cours un marathon. Ouais, bah vas-y, sois fou. Ça. C'est un peu, ça faisait un peu ça. Oui, Didouille.
Oui, moi je disais que, je pense, enfin, alors moi je suis comme toi, hein, sport et Didouille égale...
La tête à Toto,
voilà. Moi, une expérience pareille fait tout. Pour me déplaire et fais tout pour me rassurer dans l'idée que tu as raison, Didouille, de ne pas faire de ce.
Ah, non, d'accord. Alors après, moi, je suis sortie du truc en me disant waouh, je me suis bien défoulée, ça fait vraiment du bien. Mais quand une demi-heure après, j'ai du mal à mettre ma ceinture et que les 4 jours d'après, vraiment, j'avais très très mal au bras.
Mais ils t'ont pas fait faire des étirements, des choses comme
alors,
ça.
Alors, on s'est échauffé, on s'est étiré, mais je suppose pas suffisamment.
Et ça coûte combien?
7€ la séance. Donc finalement, c'est pas très cher par rapport à un abonnement.
En liquide, la séance
ouais.
Comme participant
8. 8 par séance.
Moi, j'ai hâte
minimum.
Que tu testes le salon de l'érotisme.
Ça sera plus sympa.
Je sais pas, j'espère que ça va pas te dégoûter. Quoi.
Bah, j'espère autant. Hein.
Donc, tu parleras pas de choses de 5 ou 6 centimètres.
Bon, lui, il va me prendre la tête.
Donc, bon, c'était sympa. Si vous voulez plus d'informations, donc il y a une page Facebook. Et moi, c'est vraiment parce que je suis hermétique au sport. Sinon, j'y serais bien retournée, certainement. J'ai une amie qui y va très régulièrement parce qu'elle est devenue un petit peu pas accro, mais elle se dit que c'est bien de le faire. Et voilà, j'ai testé pour vous ce truc-là. Par contre, l'avantage de ça, c'est que c'est en plein air. Et c'est sympa, il faisait beau ce jour-là. C'est sympa de se dépenser dehors plutôt que dans une salle de sport sur un
et
tapis.
Et quand il pleut des trompes d'eau, c'est pareil.
T'y vas.
Et quand il neige, c'est no limit. Aussi.
Alors après, non, pendant.
C'est les Marines, le truc.
Hey, tu me fais rêver là, Starlet.
Non, mais c'est
rêver.
Ça, mais c'est inspiré de ça en fait.
Comme ça veut dire ce que ça veut dire.
L'hiver, il me semble que vraiment en plein hiver, il n'y a pas. Mais
salle.
Voilà, alors lui, là c'était le Kill the Fat qui était en extérieur. Par contre, il a plein d'autres sessions qui sont, elles, en intérieur.
Je préférais Kill the Cat.
T'as rien fait, le chat, alors tu le laisses tranquille, c'est bien.
Ben, voilà.
Merci Delphine, et puis on a hâte d'avoir le prochain Delphine Starlet à tester pour vous. Visiblement, ça sera au salon de l'érotisme.
Voilà.
Je pense qu'il est hard.
Teaser.
Le Christophe lève les yeux au ciel. Je pense qu'il a hâte.
C'est quand ça? C'est le 2 et 3 novembre.
Voilà.
D'ailleurs, je suis prise le 2, Ludo.
Ah oui, moi aussi, c'est con.
Eh bien, sans transition toujours, nous allons passer.
Parce que moi, je.
Au quiz. Au quiz de Freddy.
Ouais,
allez, les porteros là.
Chicken carnet.
Alors j'ai voulu faire le malin, j'ai voulu faire un quiz spécial Chili, et évidemment Anthony a déjà donné toutes les réponses aux questions que j'avais préparées.
Ah bah c'est ça, voir ceux qui ont écouté.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. On va récompenser ceux qui ont bien écouté.
Ou qui ont
trop
mémoire.
Écouté.
Voilà. Alors je crois.
Du maïs.
La moule géante.
Non.
J'ai pas les points sous les yeux, mais Nico a fait un petit récapitulatif. Il y a personne qui se dégage. Hein. C'est du 1 partout.
Oui, je crois qu'on est pas très.
La balle au centre.
Les règles, ça marche comment? C'est, non, c'est on se fout sur la tronche sur les micros ou on.
Il faudrait un pouette.
Non, moi je vais demander à notre invité de faire l'arbitre. De...
C'est celui qui lève la main le premier alors.
Bon, n'importe quoi.
T'as vu ça
ou quoi? Bah, moi je dis la première, sans lever la main.
Allez, on y va.
Vas-y.
Question.
C'est parti.
Alors, c'est très simple parce qu'on l'a déjà évoqué. De quoi le Chili est-il leader mondial depuis 1970?
Le cuivre.
Exactement, bien joué.
Bien, Ludo.
Un point pour Ludo. Un Nico, tu notes les points.
Ah, j'ai pas écouté les passages chiants. Okay.
Ah, t'as rien écouté, quoi.
Donc, c'est pour votre culture.
Non, mais attends, moi, le temps que je finisse la phrase et que je.
Pour votre culture, la production mondiale était de 16,2 millions de tonnes en 2010.
C'est ça que t'aurais dû demander. De assurer. Combien de tonnes était la production?
Là, j'aurais pu
répondre. Il aurait fait moins le malin, Lulu. Crois-moi bien. Hein.
Assuré essentiellement par le Chili pour 34,1% quand même de la part mondiale. Ensuite, on trouve des pays comme le Pérou, la Chine et les États-Unis pour ceux qui suivent. Alors, on y va pour la deuxième question.
Vas-y.
Je suis chaud.
On attend que Nico se réinstalle.
Allez-y.
Autant je finis mon dragibus.
Finis son dragibus, c'est bon. Là, c'est un peu plus technique. On a évoqué cette personne tout à l'heure, mais pour le coup.
Pinochet.
Quelle était la particularité du père de Evelyne Matthei, candidate à l'élection présidentielle sous la bannière Alliance? Pourquoi était connu son père?
Il était parce qu'il a servi pour Pinochet.
Exactement.
Yes.
Un point pour Didouille.
Un point pour Didouille.
Elle en casse le lustre.
On a trouvé le pouet-pouet.
Oh, le gong.
J'ai le gong avec
Didouille
moi trop fois.
Christophe, avec le lustre.
Pour la petite anecdote, je me permets.
Vas-y, je t'en prie.
C'est le père de Michelle Bachelet, la présidente qui est face, enfin l'ex-présidente, pardon, et candidate à cette élection présidentielle qui donc, j'ai perdu le sens de ma phrase, mais en gros, le père de Michelle Bachelet est mort.
Tu parlais de Pierre Bachelet, je crois.
Est mort pendant, enfin peu après le coup d'état de Pinochet, parce qu'il a été arrêté et torturé, etc. Dans le cadre de l'épuration de.
Bien, merci Anthony. Question suivante. Vous êtes prêts parce qu'on en a parlé aussi. Qu'est-ce qui est définitivement rattaché au Chili depuis 1966?
L'île de Pâques.
Bien joué Christophe. C'est
il va un point pour tout le monde là, dis donc.
Anthony, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure d'île de Pâques. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter? Est-ce que tu avais tout dit sur l'île de Pâques?
Non, j'avais tout dit en ce sens où c'est une île que je ne connais pas, donc à laquelle je ne suis jamais.
Merci de cette précision.
Donc je vais pas broder.
Pour mémoire, c'est l'île de Pâques sur laquelle on trouve ces sculptures.
Voilà, les grands bois.
Grand, 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 grand
Alors on y va, question suivante. Nico, tu as noté les points.
Je note les points.
Bravo. Qui était surnommé l'alien des Français?
François Hollande.
Non.
François Mitterrand.
François Mitterrand.
J'allais le dire.
Oh, punaise.
Ah, c'est une question de timing, hein, parce que François Mitterrand était élu dans les années 80.
C'est vrai, j'allais le dire. Mais
il était toujours président à la fin de Pinochet?
Bien oui, puisqu'il a été président en
95. 95, oui, absolument. Et donc, il était déjà dans le, sur l'échiquier politique français à l'époque où Allende était déjà président du Chili. Voilà, donc le point pour Christophe. Nick, qu'est-ce qui a réuni 20 000 personnes dans les rues de Santiago il y a tout juste une semaine?
La commémoration du 11 septembre.
Les noms, les noms. Les manifestations étudiantes.
Pas du tout.
Il y a une semaine.
La zombie walk.
La zombie walk. Walk.
Qui a dit
c'est vrai?
C'est moi.
Eh ben c'est
toi. Ouais. Alors non, elle a très mal dit. On dit pas walk, on dit walk. Donc c'est moi qui gagne.
Tu lis pas quoi là?
Elle va pour Starlet, mais je crois qu'elle a été aidée.
Oui.
Par Mini Marius.
D'accord. Du coup je mettrai un demi point.
Ah oui.
C'est juste. Mais moi je suis arrivé à décrypter. Tout le monde l'a vu.
Mini Marius. Mini Marius.
On m'a refusé Polaroid la semaine dernière à cause de ça. De la même façon.
Exactement.
La semaine dernière c'était il y a un mois. Il faut que tu te le mettes dans le crâne à un moment parce qu'il y a quelque chose qui va pas.
On vous explique qu'on enregistre les émissions.
Allez, une dernière question. Une dernière question. En 1921, Adrienne Bolland, aviatrice de son état, se pose à Santiago après avoir franchi la cordillère des Andes. Oui. C'est une première.
Elle était morte.
Tout le monde est là pour l'accueillir.
Sauf quelqu'un.
Bah, qui crache.
Sauf quelqu'un.
C'est vrai.
Qui?
Son mari.
Non.
Le président.
Le président.
Non, le président. Je ne sais pas s'il est là, en fait.
Sauf la tour de contrôle qui n'a pas pu...
Le général Pinochet, parce qu'il est encore trop petit pour pouvoir...
La française Adrienne Bolland se pose à Santiago après avoir...
En quelle année, 31 ?
Franchi la cordillère des Andes, en 21.
21.
Et alors, on peut imaginer que c'est la première personne à être là, mais elle n'est pas là.
Son avion, alors ?
Une personne, Christophe.
Je crois qu'il n'a pas compris la question.
C'est un rapport avec un dirigeant français ?
Oui.
Donc le président en 21 de France.
Le président du Conseil.
Non,
Léon Blum.
Non.
Le général de Gaulle, qui n'avait rien à faire.
Le maréchal.
Jacques Chirac.
Quelqu'un qui est sur place.
Non, c'est en 1921.
Ah, l'ambassadeur de France au Chili, évidemment.
Et pourquoi? Point pour Ludo. Et pour
Non, il n'a pas donné son nom, t'es gentil.
Il a pas dit, attends, tu rigoles, l'ambassadeur du Chili, c'est du légendaire.
La question, c'était pourquoi?
Et pourquoi il n'était pas là? Vous voulez savoir pourquoi il n'était pas là?
Parce qu'il est.
Il était occupé à manger de la moule géante à ce moment-là.
Il a été assassiné.
Non.
Il est mort d'une crise cardiaque.
Non, il n'est pas mort.
Il n'était pas au courant.
Il avait la Tourista.
On l'avait mis au courant.
On l'avait mis au courant.
Mais il s'en foutait.
Mais franchement, comment elle s'appelait?
Ah non, il était anti-féministe et ça le faisait chier que ce soit une gonzesse qui gagne.
C'est plus simple que ça.
Non, non, c'est simplement...
C'est plus simple que ça.
Le réveil n'avait pas sonné.
Il était à la zombie walk.
On l'a mis au courant. Il sait, mais il ne vient pas.
Il buvait des bières à Valparaiso.
Parce qu'il ne savait pas où c'était, en fait.
Manger de la coca en montant au lac, machin.
Bah, il était en France.
Et non, il est ambassadeur.
Parce qu'il pensait,
il pensait
qu'elle était morte en fait en traversant.
Non.
Qu'elle n'était pas encore arrivée. Il pensait qu'elle avait disparu dans la cordillère des Andes.
Mais tais-toi.
Non, j'occupe le terrain. J'occupe le terrain là.
Il pensait qu'une femme n'y arriverait pas, donc il avait pas envie de se faire chier.
Je veux ce point.
Et ben personne l'aura. Je vais vous donner la réponse.
J'ai le demi point.
Ah oui, il a un demi point.
Non.
Mais t'en sais rien, tu sais pas.
Ah oui, il a un demi point.
Non, mais
quoi? Je veux le demi point. Autre. Alors c'est moi qui vais dire. Parce qu'à la cordillère des Andes, on avait perdu son avion et on pensait qu'elle était morte.
Non, c'est pas ça.
Tu vois, pour dire ça, ça sert à rien.
Alors, je vous donne la réponse. L'ambassadeur de France ne se déplace pas, tout simplement parce qu'il a cru à un canular. On lui rapporte l'information. Il dit, qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est bon, là.
Tu fais super bien l'ambassadeur de France.
C'est pas loin de ce que j'ai dit quand même. Mais bon, je vais faire mon Christophe.
T'as rien dit.
Je suis pas tout à fait d'accord.
Moi, je peux vous faire le Chilien qui vient lui annoncer le truc.
Oh, oui, allez,
allez, monsieur, s'il vous plaît.
Donc là, ça paraît assez fou. L'ambassadeur de France ne se rend pas sur les lieux de l'atterrissage alors qu'il y a toute la classe politique chilienne et tous les représentants. Lui n'y va pas parce qu'il a cru à un canular.
Enfin, d'accord.
Fin mot de l'histoire.
Eh ben mince.
C'est tout pour le quiz.
Et donc, à l'issue du comptage, c'est Monsieur Ludo qui, grâce à un demi-point que vous contesterez, arrive quand même à 2,5 points. Devant Christophe, 2 points. Didouille, 2 points. Starlet, 2 points.
Yeah!
Marius et moi-même, et on a 0. Voilà.
Voilà.
Ouais, si on avait compté les points de l'épisode pilote,
depuis le début,
Didouille et moi, nous serions premiers.
C'est vrai en plus.
J'ai...
Ah non, c'est pas possible.
Ah bah si, moi j'avais un point aussi dans
non,
le premier.
Non, parce que j'avais marqué, bon, j'avais marqué des points dans le premier, j'avais marqué deux.
C'est peut-être pas très très grave non plus.
Oui. Si, c'est très grave. Bon, d'accord.
Je vous propose de passer maintenant aux 60 secondes chrono où chacun présente ses coups de cœur et coups de gueule. Pour ces 60 secondes chrono, c'est Christophe qui va s'y coller en premier. Je prépare le chrono.
Coup de cœur, coup de gueule.
Coup de cœur, coup de gueule.
Alors, c'est un coup de gueule.
C'est parti.
C'est rare.
Il est un petit peu retombé, mais il est quand même présent. Il s'agit de la taxe à 75% sur les hauts revenus et qui touche particulièrement les clubs de foot. Taxer les entreprises donc lorsqu'elles versent des salaires de plus de 1 million d'euros. Donc oui, je trouve ça un peu aberrant parce que donc j'ai un peu cherché, ça concerne 13 clubs et 120 joueurs. Et donc ils vont nous pondre une super grève qui va durer un week-end. C'est un peu dommage. Pour une fois qu'une grève pouvait faire plaisir à plein de gens, elle va durer qu'un week-end. Une grève de foot de 6 mois...
Ah, ça, elle est bonne, celle-là. J'adore.
Une grève de foot de 6 mois, ça aurait été extraordinaire, voire même un an. Donc moi, je leur dis, faites grève, ad vitam aeternam, ce serait magnifique.
Bah, je suis d'accord avec ton coup de gueule.
Voilà, et surtout dans la conjoncture actuelle où il y a des gens qui vivent avec le SMIC, qui ont du mal à finir les fins de mois, je trouve ça indécent de parler, d'être contre et de faire une grève parce qu'ils veulent pas payer leurs 75%.
Merci Christophe de ton coup de gueule qui a l'air partagé par une bonne partie des gens autour de la table. Didouille, à toi.
Alors moi
tu es
j'ai.
Prête c'est parti.
Alors moi deux coups de cœur pour deux albums de musique. Un de Holy Seas qui s'intitule My Name Is, sorti le 30 septembre 2013 avec le titre phare qui est Come Back to Me, mais moi j'adore The Fall pour changer un petit peu. Et puis l'album de Yodelis qui est sorti là le 18 octobre 2013 qui s'intitule Square Eyes avec le titre qu'on a tous entendu Fade Away. Mais moi je suis allée sur iTunes écouter des extraits parce que j'ai pas encore pu l'acheter. Mais franchement, super. Et il passe d'ailleurs au 106 le 30 novembre.
Mais c'est complet.
Ben non, j'y vais.
Oui, mais c'est complet quand même.
Ben oui, mais fallait. Elle est con, mais fallait le faire. Et ah moi, j'y suis allée. Donc, je vous laisse écouter. Et ça promet parce que c'est super.
Oh, dis, ça casse le truc là.
Merci Didouille.
J'ai bien aimé la fin du morceau là.
Ouais, moi aussi j'aime bien le.
Ouais, un peu d'électro comme
en
ça.
En même temps, le dernier mot c'était perfect. Ouais.
Mais non, mais je suis déçu parce que je voulais y aller, je me suis réveillé trop tard. Et c'est tardé.
Donc c'est pas moi la com dans l'histoire.
Non, mais bien sûr que c'est pas toi. Oh. Monsieur Lulu, qu'as-tu à nous présenter? Un coup de cœur, un coup de gueule, attention, c'est parti.
Ce sera un coup de cœur pour l'initiative de l'Omnia, le cinéma, j'en ai parlé pas mal aujourd'hui, mais l'Omnia, le cinéma donc, de Rouen, qui a proposé hier soir une soirée retour vers le futur. La projection en copie restaurée numériquement, pour la première fois depuis très très longtemps, donc une projection dans un cinéma des trois films de la trilogie Retour vers le futur en version originale sous-titrée. Donc, il y a eu beaucoup de débats sur le fait de savoir si le film devait être diffusé en VF ou en VO. Ils ont tranché pour la VO. Et moi, je veux dire que j'ai particulièrement apprécié la VO. C'était l'occasion de le découvrir dans des conditions optimum, dans la grande salle de l'Omnia, avec un public très présent et très présent et très
actif.
Voilà. Et vraiment, c'est un bonheur de redécouvrir ce film-là et de s'apercevoir à quel point il est drôle, toujours aussi contemporain et pas daté pour un sou.
Merci Ludo pour avoir participé à cette soirée. Je rejoins ton analyse.
Enfin, pas daté. Excusez-moi, mais les effets spéciaux doivent faire un peu chier. Eh ben,
carrément pas. On s'est fait la remarque que c'est un film qui n'a pas hyper vieilli.
Et vous dépassez la minute.
Non, mais oui, c'est vrai.
C'est bon. Mmh. Voilà. Il faut réagir, là. Il faut aller un droit de
réponse. Non, il ne faut pas se laisser remuer comme ça. Freddy, à toi. C'est parti pour ton coup de cœur ou ton coup de gueule.
Et moi, c'est un coup de gueule contre la publicité envahissante. Là. Enfin, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'en peux plus d'ouvrir une vidéo, d'ouvrir un magazine et de sans cesse tomber sur les publicités. Je me sens agressé. On ne peut plus regarder une vidéo sur Internet sans devoir se taper une pub de 20 ou 30 secondes, même si le contenu est parfois équivalent. Une vidéo de 30 secondes, on est allé le même temps de pub. Alors parfois c'est écrit cliquez pour passer l'annonce.
Ignorer
l'annonce. Oui, moi je suis déjà avec ma souris là en train d'attendre que pour cliquer. Je suis devenu complètement imperméable à la publicité, donc ça a plutôt l'effet inverse sur moi. Il y en a trop partout tout le temps. Je vais passer peut-être pour le compte service. Hein, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je ne sais pas si vous vous souvenez d'un temps pas si lointain où le dimanche soir on attendait Culture Pub avec impatience pour découvrir des super pubs créatives et tout. À l'époque, on prenait ça comme de l'art presque. C'était bien. Bon, aujourd'hui, on en bouffe partout. Je supporte plus ça. Je regarde jamais un film sur une chaîne qui coupe le dit film par une pub. Voilà, c'était mon coup de gueule.
D'accord.
Enfin, c'est oui.
Ouais.
Alors,
sur un coca. Culture Pub, c'était pas non plus la pub pour Erta, quoi. C'était des pubs un peu originales.
Ah, des fois, il y avait un peu.
Bah, après, faut voir. Non, c'est ce qui permet d'avoir du média gratuit sur Internet aussi. C'est un débat, mais bon, qui mérite d'être posé.
Moi, ça m'insupporte.
Non, mais je suis d'accord avec toi.
C'est vrai que 20 secondes de pub pour une vidéo qui fait 20 secondes, c'est.
Ce que tu peux faire, il y a une petite astuce des fois, ça marche des fois, c'est. Tu cliques sur. Donc, tu arrives sur la page où tu as ta vidéo, puis hop, tu reviens en page arrière et tu reviens dessus. Et la pub, elle y est pas, elle y est plus forcément.
T'es trop un malin.
Oh, le geek de malade! Oh, le nerd!
Et t'as pas forcément. Ouais, je sais, ouais.
Mauvais
et Anthony
garçon.
Qui voulait parler, vous l'avez scotché.
Allez Anthony pardon.
Non, j'allais juste dire, il y a encore pire que ça, c'est les pubs que tu ne peux non seulement pas zapper,
qui se déclenchent automatiquement.
Voilà, et en plus, si tu changes de page, la pub se bloque et tu n'acceptes pas ton contenu tant que tu l'as pas vu en entier.
Cochonnerie. Effectivement, les grosses dérives. Starlette, à toi. T'es prêt? C'est parti.
Alors pour moi, c'est un coup de cœur. C'est un morceau en fait de Lord, L-O-R-D-E. J'ai pas écouté l'album, il y a juste ce morceau qui m'a happé. Je sais pas comment vous l'expliquer, je l'ai entendu une fois et j'ai eu le besoin de le réécouter en boucle, vraiment. Et alors je sais que Nico, je lui ai fait écouter, il est complètement hermétique, il me dit il y a rien, il y a pas de musique, il y a rien. Et comme quoi vraiment la musique c'est complètement subjectif, moi j'ai été tout de suite avec rien en fait happé par ces chœurs. Ses harmonies, etc. Et je l'écoute en boucle depuis à peu près 3 semaines. Je suis un peu monomaniaque écoutale, en fait. Je vous laisse écouter un petit peu le morceau. Fait chier aussi.
Non, mais c'est la tête de Nico.
Alors ça passe très souvent sur France Inter.
Ouais, j'adore ce morceau. Oui, Nico, il a un métier.
C'est marrant,
ça, mais
c'est marrant parce que quand tu as envoyé le lien sur Facebook, j'ai écouté ce morceau-là et je me suis amusé. Je jouais de la basse à ce moment-là. Et j'ai doublé le truc.
Tellement c'était chiant à la base.
Ça m'a éclaté de doubler la basse de ce morceau-là.
Donc non, toi aussi, tu l'as trouvé sympa ce morceau.
Non, mais moi, ça me laisse de marbre. Après, il en faut pour tout le monde. Voilà.
Elle est pas dedans.
Non.
non. Le tigre n'a pas mangé le bébé.
Attention, accident de chat. À mon tour, avant de laisser la parole à Anthony qui va se prêter au petit jeu des 60 secondes chrono. Donc, moi, c'est parti. Donc, je voulais revenir rapidement sur l'anniversaire du site Daily Mars, donc, qui est certainement l'un de mes sites quotidiens favoris. Je consulte vraiment tous les jours, qui traite de cinéma, séries, BD, etc. Donc, je vais pas là plus rentrer dans le détail. J'ai fait un petit billet, donc je me fais ma propre pub sur cet anniversaire. Et pour plus d'infos, je vous conseille d'aller le voir. Sinon, un autre coup de cœur, c'est pour le copain Guillaume Bouly, qui a récemment relancé un nouveau podcast dans le domaine de la musique, qui répond au doux nom de Loud Corner et dont le slogan est Playing Everything Louder.
Wow.
Donc vraiment avec un nom comme ça, on s'attend à du gros métal qui tâche.
Bah,
en fait non, c'est pas que du gros métal, il touche à tout. C'est très éclectique, moi je le recommande, il y a de la bonne humeur, de l'humour. Ça dure une trentaine de minutes pendant lesquelles il présente l'actu musicale, il fait des chroniques sur les albums qu'il a découverts, c'est vraiment sympa. Sinon hier, j'ai participé à Retour vers le futur et j'ai trouvé ça vraiment sympa. J'ai vu Gravity et j'ai trouvé ça génial. Et on a vu Michael Gregorio il y a un mois à peu près en concert et c'était top, top, top.
Et on dirait Marius.
Ouh, je l'ai tenu.
Tu ne refais nous le top 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 là.
Pardon.
Ça c'est.
Bonsoir, bonsoir. Maintenant, c'est la parole à Anthony. Donc tu as 1 minute, 60 secondes, pas une de plus, pour nous présenter ton coup de cœur ou ton coup de gueule. C'est parti.
Alors, c'est un peu improvisé, mais puisqu'on était parti sur, sur le Chili, on a parlé un peu tout à l'heure de cinéma, mais on n'a pas parlé de littérature. Du Chili, y a, on pense forcément à Sepúlveda, le vieux qui lisait des romans d'amour, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi plein de petites choses qui nous arrivent. Et récemment, sont sortis aux éditions Métayer deux livres d'un auteur chilien qui s'appelle Ramón Díaz Heterovich, qui fait des polars. Les polars suivent l'histoire d'Heredia, c'est un détective privé, qui est avec son chat Simenon, un chat un peu philosophe, qui est son ami, son confident. Enfin voilà, ça donne des discussions un peu bizarres, mais c'est très drôle. Et c'est surtout un auteur qui nous emmène vraiment... qui nous emmène... Il y a eu un
compte. Je sais pas ce qui se passe. Excusez-moi, il se passe un truc.
Ah non, pas lui.
Mais non.
C'est hanté.
C'est hanté.
C'est la revanche de... Vous savez qui?
Madness
Reign. Attends, on va laisser...
Oh non,
je finis en deux mots.
Fini, vas-y.
Je finis en deux mots. C'est un auteur qui arrive vraiment à nous transporter au cœur de Santiago, à nous emmener à la fois dans les bas-fonds de la ville, dans les quartiers les plus populaires, dans les bars les plus sombres, mais en même temps, c'est très vivant, c'est très bien écrit, et je vous invite à le découvrir. J'ai ramené deux livres, on pourra mettre les références, je suppose, sur le
très
site.
Bien, voilà. Pas de problème, au contraire. Désolé pour l'incursion de Madness Reign, un reliquat de l'ancien épisode. Une boulette de la semaine dernière. Voilà.
Mais ça,
merci Anthony pour t'être prêté au jeu du coup de cœur. On mettra donc les liens, on nous passera les informations.
C'était quoi les deux titres, c'était, tu avais...
Alors les deux livres qui viennent de sortir s'appellent Le deuxième vœu et La couleur de la peau.
D'accord.
Aux éditions Métayer.
Merci. Nous allons donc enchaîner avec la séquence de Didouille, qui est la séquence pour s'endormir moins bête.
Non, pas de sexe.
On va parler de bouffe, ça, alors, ouais. Peut-être. Hein, on parle de bouffe.
Bah, on n'est pas très loin de l'idée de bouffe. Non, j'ai juste une question. Mais en même temps, je pense qu'il y en a qui connaissent déjà. Mais je trouvais ça rigolo. Je vous pose cette question. D'où vient l'origine du mot bistrot?
Ça vient de russe.
Oui.
Sans déconner, c'est vrai.
Bistrot, en russe, ça veut dire vite.
Exactement.
Ah bon, ça veut dire faire trop l'amour, bistrot.
trop souvent.
Non, c'est ça, Anthony, la gagne.
Bravo.
Wow. Ah ouais. Raconte
oui,
alors.
Bistro, ça veut dire vite en russe, et ça date en fait de la Seconde Guerre mondiale, quand les Russes étaient là, dans les bars, et quand ils trouvaient que le service était un petit peu trop longué, ils disaient bistro, qui veut dire vite en russe, et voilà. On a gardé ce.
Ah, ça, c'est marrant, ça. Je pensais que c'était franchouillard, en fait, à la base.
Eh ben non, c'est pour ça que je l'ai dit. C'est ça. Alors, du coup, elle est très rapide. Hein, voilà.
C'est pas trop tellement un problème, en fait.
Ça nous arrange
plutôt pas mal.
À 13h26.
On est moyennement dans les délais, donc ça va.
Non, mais Anthony est brillant.
Oui.
Bah, merci Didouille et merci Anthony Le Brillant. Et nous allons donc passer maintenant à la partie
c'est
conclusion.
Faradali.
Je pense.
Pas de générique
pour la conclusion. Donc, pour cette fin d'épisode, avant le temps attendu, séquence post-générique, on va faire un petit tour des popotes pour savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver. Donc, Christophe.
Comme d'hab,
vous retrouverez, vous démerdez, il est nulle part. Didouille.
Moi, ça dépend ce que je fais en ville ou chez
moi. Dans ma cuisine.
Voilà, en train de bouffer ou de autre chose.
Au salon de l'érotisme, les 2 et 3 novembre.
Le 2 et 3 novembre, oui.
Mister Lolo.
Bah, moi, j'ai un nouveau site, tettinggonflé.com. comme toujours, vous m'y retrouvez.
Et dans le dernier épisode de Maggie, on peut te retrouver.
Anthony, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets?
Je contribue au site de... Non, on peut me retrouver sur Twitter... Chili et Carnet, on peut me retrouver sur mon blog évidemment. Vous pouvez googler Chili et Carnet, voilà, et vous me trouvez assez facilement.
D'accord.
Sur Facebook, partout.
Très bien, on mettra les liens de toute façon. Freddy.
Comme d'habitude, sur Twitter, @FreddyLame, c'est mon prénom et mon nom, LA2ME.
pas très original, dis-donc.
T'arrêtes.
D'accord.
Je pourrais te reparler après, j'ai juste un truc à dire.
Moi, on me retrouve donc dans La vie secrète de Colly Basile. Wow. Donc, Colly Basile. Et éventuellement sur un bootcamp. Ouais, peut-être. Ou alors au salon d'érotisme
la semaine prochaine, si vous voulez y aller. Et puis moi-même sur Twitter, Narguilet, ou sur le blog Les Fonds de Tiroir, et puis un peu ailleurs, et puis sur l'Entrepode, bien sûr. Donc, on avait prévu de faire des billets sur le blog, on n'a toujours pas trop avancé sur ce sujet-là, peut-être, mais on perd pas espoir, peut-être un jour il y aura des billets là-dessus, sinon on est sur Twitter, sur Facebook, sur Google+, bref, un peu partout, vous tapez l'Entrepode, vous allez certainement trouver, sur iTunes, si vous voulez mettre des commentaires, nous faire remonter vos retours, il n'y a pas de problème, on essayera d'en tenir compte. Donc, on va se quitter désormais, mais je vous conseille de rester jusqu'à la fin du générique.
De toute façon, sinon, on se dit à la semaine prochaine, hein, Ludo.
Je fais une présentation ou non c'est, ou
Après le générique, je pense que nous allons laisser la parole à Mister Lulu, qui nous fera une présentation de la surprise qu'il vous réserve pour la séquence post-générique. Et on se dit, normalement, d'ici un mois, pour un prochain enregistrement. À la semaine prochaine.
Allez, à la semaine dernière.
À la semaine dernière.
Voilà, nous voilà de retour brièvement pour vous présenter un nouveau morceau après Madness Rain et le Canada la semaine dernière. on change d'univers, cette fois-ci on va sur un de nos classiques, hein. Un classique un peu trop oublié malheureusement. Un classique de 1979, il s'agit de Tony Marco qui nous chante Lâche-moi les babouches. Et vous allez voir, c'est un monument intégral de la chanson française, de la variété française de qualité. Vous pouvez retrouver Tony Marco sur son site internet dont la dernière mise à jour date du 10 août 2000. Vous allez voir, c'est quelque chose. Laissons la place à l'humour ensoleillé, comme il le dit lui-même, de Tony Marco.
Et une chichia, un murnous, je suis parti pour le Sahara. Arrivant dans les dunes de Tataouine, c'était moussé du ventre une belle bédouine. Lâche-moi les babouches, lâche-moi les babouches. Domina, Olivia, Yasmila. Lâche-moi les babouches, lâche-moi les babouches. Je suis les tiens qui dit les travaux du Sahara. C'est facile, danser le disco. Lève une jambe, c'est kiff-kiff, comme le bourrico. L'Olivia du désert, c'est Yasmila. Tous deux, on est roi du disco samba. Lâche-moi les babouches, lâche-moi les babouches. Domina, Olivia, Yasmila. Lâche-moi les babouches, lâche-moi les babouches. Je suis les tiens qui dit les travaux du Sahara. Thank you.
et à toutes mêlées. Tous les gens arrivés pour nous admirer. Il y a Baba, la Nouba et la Smala. C'est devenu la fière du Sahara. Lâche-moi les babouches, lâche-moi les babouches. Domina, Olivia, Yasmila. Lâche-moi les babouches, lâche-moi les babouches. Je suis les gentili, les Travolta du Sahara. Lâche-moi les babouches, lâche-moi les babouches.